18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bienvenue à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ces deux heures d'information très complète, très dense, avec de l'analyse, du débat, des échanges sur Europe 1, c'est votre grand journal du soir. Les échanges justement avec ce face-à-face, un Premier ministre qui fait des concessions, des syndicats vont debout. On va revenir sur les annonces d'Edouard Philippe à la mi-journée dans votre journal. Dans un instant, Sébastien Krebs, bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Âge de départ, régime spécial, compensation pour les femmes, de 18h20 à 19h, notre grand forum sur Europe 1 pour analyser les annonces de l'exécutif et entendre l'avis des syndicats. On met tout sur la table avec le député de La République En Marche, Olivier Véran, Gérard Carrérou, notre grande voix, Frédéric Dabi pour l'IFOP et Fabrice Angéli de la CGT. On se dit tout, on essaye d'expliquer évidemment, vous posez vos questions, on en débat avec vous bien sûr au 3921. On poursuivra avec Emmanuel Dutheil d'ailleurs dans ce studio à partir de 19h30. C'est votre grand journal du soir et c'est s'élance jusqu'à 20h.
18h, merci d'avoir choisi Europe 1.
Pour garantir les pensions, la seule solution, c'est de travailler un peu plus longtemps.
Et voilà l'annonce qui ravive la colère des syndicats. Âge légal maintenu, 62 ans. Mais Édouard Philippe confirme un âge d'équilibre, 64 ans. Ceux qui partiront avant seront pénalisés.
La fronde syndicale reprend de plus belle. La CFDT se réunit ce soir et envisage de rejoindre le mouvement.
Vous le savez, il y avait une ligne rouge dans cette réforme. Cette ligne rouge est franchie.
Le détail des annonces dans un instant. Suppression des régimes spéciaux, système de retraite par points. Dès 2022, seront concernés tous les Français nés après 1975.
Un geste pour les enseignants. Mais il reste beaucoup de questions. On s'y arrête longuement ce soir avec leur réaction aussi.
Et cela justifie que la grève s'arrête, dit le Premier ministre. Ce n'est pas le cas ce soir. Prévision quasi inchangée pour demain.
Dans l'actualité également ce soir, Strasbourg. Un an après l'attentat du marché de Noël, le recueillement et la résilience.
Il y a des groupes de jeunes, de musiciens qui ont utilisé des forces mutuelles pour traverser cet événement et construire quelque chose après le chaos.
Et puis Roman Polanski prend la parole. On essaye de faire de moi un monstre, dit-il. À Paris Match, après les accusations de viol. La Bourse de Paris en hausse de 0,2% ce soir à 5860 points.
Et du côté du ciel, comment ça se passe Marlène?
Oh là là, c'est pluvieux. Encore de la pluie qui débarque par la Bretagne avant de traverser les régions de l'Ouest ce jeudi après-midi. Un temps qui s'améliore temporairement près des frontières de l'Est. Du soleil du matin au soir pour la Provence Alpes-Côte d'Azur et des températures qui ont tendance à remonter, logique, sous la pluie.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Cette réforme n'est pas une bataille, a dit Édouard Philippe en entamant son discours à midi au Conseil économique et social. Et pourtant, la guerre a bien repris et de plus belle ce soir sur la réforme des retraites. On va s'arrêter dans un instant sur les multiples réactions et sur ce que ça implique pour la suite, notamment dans les transports. D'abord, le détail de ce qui a été annoncé. Le Premier ministre confirme donc la mise en place d'un régime unique de retraite par points.
Nous transformons très progressivement le système de retraite des Français pour bâtir un système de répartition plus fort parce qu'il repose sur la solidarité de tous, plus simple parce que chaque euro gagné compte et que chaque euro ouvre les mêmes droits sans logique de statut, plus juste parce qu'un fort niveau de solidarité protège les plus faibles. Enfin, nous mettons ce système plus juste et plus simple sur des bases financières solides en travaillant un peu plus longtemps et en mettant fin très progressivement aux régimes spéciaux.
Bonsoir Emmanuel Dutheil.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
On voit dans le détail avec vous les contours de ce nouveau régime de retraite. D'abord, qui sera concerné et à partir de quand?
Eh bien, sont concernés tous ceux qui sont nés après le 1er janvier 1975, donc tous ceux qui ont aujourd'hui 44 ans. La réforme va entrer en vigueur en 2025 et sa montée en puissance sera très progressive. Je vais prendre un exemple, je vais prendre mon cas. Je suis né en 1979, je suis donc concerné par cette réforme. D'ici à 2025, rien ne va changer pour ma future retraite. Elle sera calculée selon les règles actuelles, donc par exemple sur la règle des 25 meilleures années. Mais attention, fin 2024, tout ce que j'ai acquis sera transformé en points. Alors, le gouvernement me promet que je ne serai pas lésé. Et à partir de 2025, en revanche, pour chaque euro gagné, j'aurai donc des points. La valeur de ce point va être fixée par les partenaires sociaux. Sa valeur, officiellement, ne pourra pas baisser. Et ce point sera revalorisé en fonction de la hausse des salaires et pas en fonction de l'inflation. Ceux, en revanche, qui sont jeunes, qui sont nés en 2004, eux, ils entreront dans la réforme dès 2022, je dis bien 2022, ce seront donc les premiers. Une autre nouveauté, les retraites ne pourront pas être inférieures à 1000 euros pour une carrière à temps plein.
Un seul régime universel pour tout le monde, ça veut dire que c'est confirmé, Emmanuel, les régimes spéciaux disparaissent.
Oui, monsieur, mais là, ça prendra encore plus de temps en fonction de la date de départ à la retraite, 52 ou 57 ans pour les salariés, par exemple, de la SNCF ou de la RATP. On parle donc là des classes d'âge 1980 ou 1985 pour ceux qui voudront partir avec une retraite à taux plein.
Et on a quand même assez peu d'éléments hein, sur ces départs-là, sur cette pénibilité aussi. Il y a une autre profession très mobilisée, ce sont les enseignants. Le Premier ministre Emmanuel leur a donné des garanties.
Oui, personne ne sera lésé, a promis le Premier
voilà,
ministre.
C'est pas très précis non plus.
Voilà, concrètement, dès 2021, le salaire des profs va être revalorisé. Reste à savoir de combien et reste à savoir comment, prime ou salaire. L'engagement est donc là, on peut le dire, mais la mise en place est encore bien floue. Je vous rappelle qu'il faut augmenter les salaires des profs parce que jusque-là, leur retraite était calculée sur leurs 6 derniers mois d'activité et avec la mise en place du système à points, ils auraient beaucoup perdu.
Et puis dernier aspect, et c'est celui qui fait le plus réagir, Édouard Philippe confirme qu'il faudra travailler plus longtemps.
En effet, si l'âge légal pour pouvoir partir à la retraite reste 62 ans, on va le dire très clairement, ça devient purement fictif. Pour partir à taux plein, il faudra travailler jusqu'à 64 ans. Le Premier ministre appelle ça pudiquement un âge d'équilibre, comme c'est joli. Les partenaires sociaux vont devoir travailler à des systèmes de bonus-malus, justement pour nous inciter à travailler plus.
Et les réactions sont vives, hein. On attend celle de Laurent Berger pour la CFDT. Merci beaucoup Emmanuel Duteil. À 19h30, vous serez à mes côtés hein, pour répondre à toutes les questions des auditeurs notamment. On se les pose, ces questions, on va y répondre ensemble. Vous allez nous éclairer.
Ce projet de loi sera prêt d'ici à la fin de l'année. Examen en Conseil des ministres le 22 janvier. Débat au Parlement à partir de fin février.
Ces propositions justifient que la grève s'arrête, a dit le Premier ministre Édouard Philippe. Visiblement, c'est pas parti pour.
Non, très peu d'évolution à la SNCF demain. 8e jour de grève, un train sur 4 environ, que ce soit pour les TGV ou les Transiliens. 4 liaisons TER sur 10, principalement par bus et à la RATP. 10 lignes de métro à nouveau fermées.
Les cheminots qui entendent bien continuer. Écoutez le secrétaire général de la CGT à Montparnasse.
Ce qui est sûr, c'est que ces annonces ne seront pas de nature à nous rassurer et que déjà nous à Montparnasse, nous l'avons suivi en direct et que les premières réactions des camarades, c'est qu'il faut poursuivre la lutte puisque les annonces ne sont pas bonnes pour nous et aussi pour l'ensemble du monde du travail. Voilà, nous on continue à le dire, ce système à points, nous y sommes opposés. Ce qu'on voit, ce qu'on constate, c'est que, y compris dans le monde des transports, le Premier ministre veut encore nous diviser entre nous et nous ne tomberons pas dans ce piège-là. Nous sommes tous concernés. Les plus anciens doivent se battre pour les plus jeunes et les plus jeunes doivent se battre pour les plus anciens. C'est la solidarité. Donc non, ne tombons pas dans le piège de la division. On est tous concernés et on se battra tous ensemble.
Arnaud Marcin-Kiewicz de la CGT Cheminot avec Aurélien Fleureau, la CGT qui appelle à renforcer la grève.
Et il y a une réaction, une qui est particulièrement surveillée ce soir, c'est celle de la CFDT.
Les syndicats réformistes, favorables au système par points, mais farouchement opposés au fameux âge pivot de 64 ans, ligne rouge franchie, Olivier Samin, c'est potentiellement une bascule. La CFDT réfléchit ce soir à rejoindre la mobilisation.
Oui, cette réforme a été lestée par un angle budgétaire accru. On va essayer de la délester dans les semaines qui viennent. Laurent Berger n'était pas content du tout en sortant de l'hémicycle du CESE tout à l'heure. Il a fait une déclaration très courte dans laquelle on a tout de suite compris que la CFDT n'allait pas rester l'arme au pied.
Pour la CFDT, vous le savez, il y avait une ligne rouge dans cette réforme. C'était le fait de ne pas mélanger la nécessité d'une réforme systémique pour rendre le système plus juste, plus lisible, et la réforme paramétrique qui demanderait aux travailleurs de travailler plus longtemps. Cette ligne rouge est franchie. Et c'est pas parce qu'on nous montre un chemin dont on aurait soi-disant les manettes pour le choisir. Finalement, on sait qu'il y aura un âge d'équilibre à 64 ans fixé d'ores et déjà par cette réforme.
Il faut dire que ça fait des mois et des mois que la CFDT combat ce système de l'âge d'équilibre qui obligera les salariés à attendre l'âge de 64 ans pour toucher une pension de retraite à taux plein et qui du coup pénalisera tous ceux qui ont commencé à travailler tôt et qui pouvaient espérer partir avec la pension qui leur est due dès l'âge de 62 ans. Le bureau national du syndicat, qui se réunit en ce moment au siège de la Confédération à Belleville, devrait décider le mode d'action qui va être engagé. Se joindre à la prochaine journée de grève et de mobilisation annoncée hier soir par les syndicats opposés à la réforme, la journée de mardi prochain, peut-être, mais en tout cas sûrement pas sur le même mot d'ordre. La CFDT cherche en tout cas à se faire entendre.
Olivier Samin, merci. On surveille évidemment ce qui sort de ce bureau national ce soir et c'est le même discours à l'UNSA sur cet âge d'équilibre à 64 ans, l'UNSA deuxième syndicat à la SNCF.
Bonsoir Aurélie Herbemont.
Bonsoir.
La fronde reprend de plus belle, y compris chez les syndicats dits réformistes, on l'a compris. Rendez-vous manqué pour Édouard Philippe alors ? Eh bien, côté syndicat, c'est carton plein contre sa réforme. Ouais. Ma main est tendue, dit-il cet après-midi, même si là, on est plutôt sur un bras de fer. Souvenez-vous ce que disait Édouard Philippe hier aux députés. Il n'y aura pas d'annonce magique, c'est pas parce que je ferai un discours que les manifestations vont cesser. Il était d'une grande clairvoyance, mais ça n'empêche pas une certaine déception à Matignon, où on estime avoir fait des concessions. La sentence de ce conseiller est sans appel. On ne peut pas gouverner selon un axe CGT, FO, CFDT, ça ne serait pas raisonnable. Renvoyant la CFDT dans le camp des durs, les syndicats, c'est raté. Mais Édouard Philippe à midi, il ne parlait pas qu'à eux, il parlait aux Français, aux plombiers, aux caissières à mi-temps, aux agriculteurs, à ceux qui se font à l'idée qu'il faudra travailler un peu plus longtemps, aux conducteurs de bus qui ne sont pas à la RATP, à ceux qui sont pour la fin des régimes spéciaux et à ceux aussi qui trouvent que les élus ont trop de privilèges. Et Matignon fait ce pari. Il y a des Français qui vont trouver ça bien. Le Premier ministre réfute toute rhétorique guerrière, mais c'est bien la bataille de l'opinion qui s'engage.
Aurélie Herbemont, et on vous retrouve tout à l'heure à 19h10 avec votre invité politique Damien Abad, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée.
Et d'ici là, on va y revenir longuement avec vous, chers auditeurs, juste après ce journal et tous mes invités dans ce studio. Un grand forum sur les retraites avec notamment le député marcheur de l'Isère Olivier Véran. Il sera à nos côtés. Frédéric Dabi, directeur adjoint de l'IFOP. Gérard Carrérou, notre grande voix. Et puis pour la CGT et l'UNSA, nous aurons bien sûr des invités dans ce studio.
Europe 1.
Vous écoutez votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy.
Strasbourg dans la suite du journal de 18h, recueillement et résilience. On est un an après l'attentat du marché de Noël.
Et puis Roman Polanski parle à Paris Match. On essaye de faire de moi un monstre, dit-il.
Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Europe 1. Il est 18h11, la suite du journal sur Europe 1, Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Il y a un an, souvenez-vous, jour pour jour, un tireur faisait 5 morts dans le centre-ville de Strasbourg. C'était en plein marché de Noël, Sébastien.
Ce soir, toutes les cloches de la ville résonneront. Les habitants sont appelés à disposer une bougie à leur fenêtre et une cérémonie œcuménique est prévue à la cathédrale. Arthur Mbaché, vous êtes sur place. C'est un drame qui a bien sûr profondément marqué la ville. Et c'est un long travail de reconstruction qui continue encore aujourd'hui.
Alors tout, Sébastien, n'est pas réglé. Évidemment, on a diffusé ce matin des témoignages, disons, difficiles dans les journaux. Strasbourg n'est pas remise. Il y a des gens qui vont mal à cause de l'attentat de l'année dernière. Strasbourg n'est pas remise, mais Strasbourg se relève. Et ici, se passe, se joue quelque chose d'assez spécial. Il y a par exemple cette maman de victime, maman d'un jeune homme dans les mêmes âges que le terroriste, tué par le terroriste. Sa maman, donc, a écrit un message aux parents de Shérif Shekat pour faire part de sa compassion à l'égard de gens qui, comme elle, dit-elle, ont perdu un fils. Le psychiatre Dominique Mastelli connaît très bien beaucoup de victimes. Il dirige la cellule de suivi mise en place après l'attentat. Il a aussi travaillé à Nice après l'attaque du 14 juillet. Strasbourg, dit-il, pense mieux ses plaies que Nice.
Globalement, à Strasbourg, il n'y a pas eu cet effet d'éclatement de société. Et ce collectif a pour l'instant plutôt bien résisté à l'assaillant. Il y a des groupes de jeunes, de musiciens qui ont pu se regrouper après, qui ont pu construire quelque chose et qui ont pu utiliser des forces mutuelles pour traverser cet événement et construire quelque chose après le chaos.
Alors vous l'entendez, cette journée d'hommage est rythmée par des cérémonies, dévoilement d'une stèle, place de la République tout à l'heure, puis en ce moment même la remise de décorations par le ministre de l'Intérieur ici à la préfecture de Strasbourg, et dans trois quarts d'heure, cérémonie œcuménique à la cathédrale.
Arthur Mbaché en direct de Strasbourg pour Europe 1.
Salle d'audience pleine ce matin au palais de justice de Paris pour le retour des époux Balkany.
Et le maire de Levallois, extrait de sa cellule, il est apparu ainsi que son épouse, tous les deux jugés en appel pour fraude fiscale. Objectif neutralité carbone 2050 à l'échelle du continent. La nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté aujourd'hui son pacte vert. Elle alerte sur le coût de l'inaction.
Et c'est justement une icône de la lutte pour le climat qui a été désignée aujourd'hui personnalité de l'année par le magazine américain Time.
Le visage d'une génération, la jeune Suédoise Greta Thunberg, 16 ans, à la fois adulée et très critiquée. Elle incarne en tout cas ce monde qui change. Et c'est pour ça que vous l'avez sans doute vu sur les affiches de la dernière campagne Europe 1.
Et puis ça se passe ce soir avec Europe 1 dans une salle mythique. On va y venir dans un instant, mais d'abord dans Paris Match, c'est Roman Polanski qui prend la parole. Le cinéaste sort de son silence.
Pour la première fois depuis les dernières accusations de viol portées contre lui par la photographe Valentine Monnier, ce qui avait parasité, on s'en souvient, la sortie de son film le mois dernier. Mathieu Charrier, vous avez lu cette interview. Polanski nie tout en bloc.
Oui, nie les accusations de Valentine Monnier, dont il dit d'ailleurs se souvenir à peine. Et je n'ai évidemment aucun souvenir de ce qu'elle raconte, puisque c'est faux, je le nie absolument. Absolument. le réalisateur d'expliquer qu'en plus, la photographe affirme que c'est une amie qui l'avait invitée chez Polanski, mais elle ne se rappelle plus qui, précisément. C'est facile d'accuser quand tout est prescrit depuis des dizaines d'années. Et lorsque les journalistes précisent que Valentine Meunier l'accuse aussi de l'avoir battue, il répond « c'est délirant, je ne frappe pas les femmes ». Sans doute les accusations de viol ne font plus sensation, il fallait en ajouter une couche. Le réalisateur revient également sur l'affaire Samantha Gamer, qui l'a accusée de l'avoir droguée puis violée en 1977, alors qu'elle n'avait que 13 ans, dans la villa de Jack Nicholson. Depuis des années, on essaie de faire de moi un monstre pour les enfants et pour Emmanuel, c'est épouvantable. L'actrice qui a d'ailleurs, au micro d'Europe 1, lâché ses quelques mots ce matin.
Écoutez, pour moi et ma famille, c'est vraiment pas facile, donc voilà.
Enfin, dans cette interview à Paris Match, Polanski cible les médias qui se jettent sur moi avec une violence inouïe. C'est comme une malédiction qui revient et je ne peux rien y faire, estime-t-il.
Mathieu Charrier, spécialiste cinéma d'Europe 1.
Et puis ça se passe bien ce soir avec Europe 1 dans une salle mythique, l'Olympia.
Et l'Olympia qui récompense ce soir les meilleurs chanteurs et humoristes en remettant des prix, les Olympia Awards. Angèle Châtelier, la cérémonie est en train de se préparer sous vos yeux. Qui sera sur scène ?
Eh bien, notamment Jennifer, Clara Luciani, José Garcia, l'humoriste Roman Frayssinet, des grands noms comme des révélations. Et vous entendez derrière moi les balances du rappeur Diadjou. Il y a même des appareils qui crachent de la fumée sur le sol. Et j'ai pu voir Antoine Decaune, qui sera le maître de cérémonie, s'amuser à ramper dedans pendant les répétitions. En coulisses, ça s'agite beaucoup. Il faut dire qu'une dizaine d'artistes vont se produire sur scène. C'est une grosse machinerie. Presque 2 heures d'un show où l'on a mis les moyens. Derrière la scène, agrandie par rapport à des concerts classiques, d'immenses écrans qui diffuseront des images pendant les prestations des artistes, mais aussi une structure lumineuse de 5 mètres de haut et elle abrite un sésame, un Olympia Awards. J'ai croisé Catherine Ringer en loge, elle m'a dit qu'elle n'était pas plus stressée que ça. Elle est d'ailleurs l'invitée d'honneur à l'occasion des 40 ans d'Erita Mitsuko et elle chantera sur la scène de l'Olympia ce soir.
Et bien voilà pour le programme, Angèle Châtelier, depuis l'Olympia, les Olympia Awards, événement Europe 1 et c'est à suivre. C'est diffusé ce soir sur C8.
Et on y sera encore à 19h30. On aura vraiment les tout derniers préparatifs avant que la salle se mette à applaudir. Bien sûr, pour tous ces artistes présents avec vous, Angèle Châtelier. Sébastien Krebs, vous revenez-vous à 18h30.
À tout à l'heure.
Peu importe qu'il pleuve ou qu'il neige, les pneus 4 saisons Hankook s'adaptent à la route. Hankook vous présente la météo.
Marlène, une perturbation qui chasse l'autre.
Mais oui, celle d'aujourd'hui va laisser sur son sillage beaucoup de nuages et des averses avant l'arrivée de la prochaine qui va gagner déjà la pointe bretonne demain matin. Petite zone de temps sec temporaire du Nord-Pas-de-Calais à l'est du Massif central en passant par le bassin parisien, le Berry, le Nivernais. Et attention, les routes seront humides, les températures ont baissé, il y a un petit risque de regel. Prudence sur les routes de campagne. Du ciel bleu toute la journée pour la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors la Corse aura été affectée par la perturbation de la veille. La route nationale qui relie Bastia à Ajaccio sera sans doute par moment enneigée. Rien d'exceptionnel, mais on reste vigilant. Et puis dans l'après-midi, la nouvelle perturbation va débouler sur une grande moitié ouest du pays. On inclut progressivement la région parisienne. Le vent va se renforcer à son passage. Des chutes de neige abondantes à prévoir à l'ouest des Pyrénées avec un risque d'avalanche de 4 sur 5. Et puis, une belle journée pour vous qui êtes à l'est d'une ligne Metz-Lyon-Marseille. Les températures au petit matin, allez, on sera sous les 10 degrés partout. Ça peut descendre jusqu'à 0 à Nevers et à Lyon. Et puis les maximales remontent. Normal avec l'arrivée des nouvelles pluies. On prévoit 7 degrés à Lille et Mulhouse, 10 à Paris, Caen, Limoges et Clermont-Ferrand, 12 à Nantes, 13 à Toulouse, 14 à Nice et jusqu'à 15 degrés à Biarritz.
Europe 1. À suivre dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Une journée spéciale, dispositif spécial, un grand forum jusqu'à 19h. On va revenir ensemble et le plus clairement possible sur les annonces d'Edouard Philippe à la mi-journée et les réactions des syndicats pour le moins fraîches hein, ce soir. C'est le grand forum avec vous, nos invités. C'est au 3921 si vous voulez nous contacter. Et c'est dans maintenant moins de 2 minutes.
Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. 18h22, la suite de votre grand journal du soir avec un grand forum spécial ce soir sur Europe 1 jusqu'à 19h. Avec vous Nathalie Lévy, on revient bien sûr sur les annonces d'Edouard Philippe sur cette réforme des retraites. Autour de la table, Fabrice Angéhi de la CGT, Frédéric David de l'IFOP, Olivier Véran, député La République En Marche et Gérard Carrérou.
Bonsoir à tous les quatre, merci d'être dans ce studio avec nous jusqu'à 19h pour éclairer les Français après cette prise de parole d'Edouard Philippe. On est après 2 années de concertation et on est après 6 jours de grève et de mobilisation. Le compte est là. Edouard Philippe a dévoilé donc devant le Conseil économique, social et environnemental sa réforme des retraites. Écoutons-le un instant.
Ce projet que nous avons mis sur la table, il va donner lieu à des discussions avec les organisations syndicales. Nous allons discuter, ma porte est ouverte, ma main est tendue. Vous aurez remarqué que dans le projet que nous avons proposé après les travaux du haut-commissaire. Il y a beaucoup d'avancées, ce qui montre que notre objectif, c'est de travailler avec les partenaires sociaux, bien entendu, et puis le moment venu, avec l'Assemblée nationale et le Sénat. Et j'ai même indiqué que je souhaitais que cette discussion ait lieu rapidement, parce que je pense que ce sujet passionne, inquiète parfois les Français, et qu'il faut donc le traiter au Parlement.
On a entendu tout à l'heure Édouard Philippe devant le CESE, on l'écoutait là devant le Sénat. Je voudrais me tourner vers vous, Olivier Véran, ce soir. Les annonces d'Édouard Philippe, on voit qu'elles sont accueillies fraîchement par les syndicats. Franchement, vous croyez que c'est de nature à calmer la colère aujourd'hui des Français ?
Je crois que c'est de nature à expliquer aux Français le contenu de la réforme, ce qu'elle n'est pas et ce qu'elle est. Et il y avait une attente qui était très forte, avec une inquiétude qui était très forte des Français, qui s'est exprimée à travers les manifestations, le mouvement de grève. Et je crois qu'on rentre dans la période de l'éclaircissement et des faits. Par exemple, les salariés qui sont au SMIC savent maintenant que leur pension ne va pas baisser, contrairement à ce qu'on pouvait entendre, mais qu'avec le nouveau système des retraites, elle augmentera de 60 euros par mois. Par exemple, maintenant, on a la certitude que dès 2022, plus personne qui a cotisé toute sa vie ne pourra percevoir moins de 1 000 euros, etc., etc. Donc, ça permet d'apporter des réponses sectorielles, et la main reste tendue aux syndicats, notamment sur ce qui concerne le fameux horrible mot du paramétrique, c'est bah, un peu compliqué, mais en gros, comment est-ce qu'on arrive à équilibrer le système des retraites ? La main est tendue aux syndicats pour faire des contre-propositions.
La main est tendue, on a entendu Édouard Philippe le dire, la main est tendue, mais il y a des choses qui passent pas, qui coincent véritablement. Fabrice Angéhi, secrétaire confédéral de la CGT, que dites-vous ce soir au regard des annonces qui ont été faites ? Il y a des choses qui ont été données. Il y a un petit peu de lest qui a été lâché de la part d'Edouard Philippe. On va revenir dans le détail dans un instant, mais au global.
Ce que l'on dit au global, c'est le rapport de Levoy en pire. En pire dans la mesure où c'est aujourd'hui la fin de 62 ans pour l'âge de départ en retraite. C'est 64 ans. 64 ans, c'est l'âge d'espérance de vie en bonne santé et moins pour certains métiers. Et c'est, quoi qu'on dise, un niveau de pension amoindri, avec des tours de passe-passe, y compris des 85% du SMIC. Je rappelle que ça a été voté dès 2003 sous le gouvernement Fillon et c'était applicable en 2008.
Exactement.
Donc là, il n'y a rien de nouveau aujourd'hui.
On peut nuancer.
Sauf l'application.
Sauf qu'effectivement, on peut quand même nuancer ce que vous avez annoncé sur cette pension minimale. C'est vrai qu'on peut le nuancer. On va y venir dans le détail, tous ces points, un par un. Votre lecture aussi, Frédéric Dabi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se dit ? Édouard Philippe a convaincu ?
On le verra. C'est un nouvel élément dans la bataille.
On a quand même une petite idée là.
Oui, c'est un nouvel élément dans la bataille de l'opinion qui se joue. Pour l'instant, les Français sont attentistes. Ils soutiennent le mouvement social quasiment au même niveau qu'en 95. C'était monté très fortement après. Je dirais qu'il a désamorcé deux risques. Ce terme de retraite à points qui suscitait une inquiétude extrêmement forte sous le mode retraite à points, on va sûrement y perdre comme on perd sur le permis à points, avec cette règle d'or, avec l'assurance que ça ne baissera pas, il a peut-être désamorcé. Par contre, la ligne rouge pour beaucoup de Français de l'allongement de l'âge de départ légal de 62 à 64 ans peut, je dirais, constituer un vrai frein, même si avec un discours extrêmement large, global, se référant moins à la rupture qu'à la continuité, en parlant du CNR, en parlant de Michel Rocard, de Pierre Mendès-France, il a peut-être enraciné chez une majorité de Français l'idée que le gouvernement ne reculera pas, comme c'est il a parculé pour la réforme de la SNCF en 2018 et le Code du travail en 2017.
Et c'est là-dessus notamment cette fameuse ligne rouge qu'avait évoqué Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, qu'on attend d'ailleurs, il s'exprime là dans quelques minutes probablement. Lui, c'était la ligne rouge, il ne voulait pas en déroger, il est extrêmement remonté. Notre grande voix, Gérard Carrérou, qu'en dit-elle ce soir ?
Écoutez, j'ai trouvé au départ que c'était plutôt bien parti. Ça s'annonçait, il y avait des accents un peu, je dirais, gaullistes, à la mode Chaban-Delmas, de la Nouvelle Société, des accents rocardiens d'ailleurs. Il a cité ces gens-là, et également Mendès, C'était plutôt bien parti, le discours était assez bien construit, c'était pédagogique, etc. Je me suis dit, tiens, ça peut passer, il y a des concessions importantes sur les transitions, sur les femmes, enfin, il y avait beaucoup de choses, et je me suis dit, jusqu'à la fin de l'heure, je me suis dit, ça va peut-être passer. Et puis, patatras, il y a eu effectivement l'âge. L'âge est revenu les 64 ans. Et là, je me suis dit, ouïouïouï. Et puis, quand on a vu effectivement la première réaction et la tête de Laurent Berger, on a compris que ça passait pas. En tout cas, ça passait pas à la fin de cette première phase. Il faudra en attendre sans doute une deuxième, voire une troisième. Pour l'instant, donc, je dirais l'offensive qu'on nous avait annoncée depuis plusieurs jours, l'offensive du Premier ministre, n'a pas réussi. C'est le moins que je puisse dire.
Vous entendez, Olivier Véran. Et je voudrais juste que vous me répondiez sur un point ce soir, avant de vous entendre tous les quatre, sur les différentes annonces qui ont été formulées par Édouard Philippe. La CFDT. Vous comptez depuis le début sur la CFDT et l'UNSA, la CFDT syndicat réformiste, qui comptait aussi sur vous. Ce soir, ça s'effrite considérablement. On va voir ce que dit Laurent Berger, mais Gérard Carrérou l'a dit, on a vu sa tête. Qu'est-ce qui se passe si la CFDT aujourd'hui et l'UNSA rejoignent le mouvement? Qu'est-ce qui va se passer?
Je mets une nuance importante. Le gouvernement, par la voix du Premier ministre, a fait une proposition. Il a dit, il faut équilibrer le système des retraites. Mmh. La proposition du gouvernement, c'est celle-ci. On passe, non pas à l'âge légal reste à 62 ans, mais si vous ne voulez pas qu'il y ait une décote, progressivement, ça montera à 64 ans.
Pardon, ça concernera tout le monde en 2027,
mais en parallèle, plus personne ne sera obligé de bosser jusqu'à 67 ans pour bénéficier de son taux plein, parce qu'il n'y aura plus de décote, on va baisser vers 65 ans. Mais le gouvernement, le Premier ministre a dit, je termine juste là-dessus parce que c'est important, si les partenaires sociaux veulent nous faire des propositions et qu'ils ont une alternative à cette disposition, alors nous la regarderons avec le plus grand sérieux. Et je le crois sincèrement.
Donc, juste un mot, la main tendue
à Laurent Berger, c'est vrai.
La main tendue au syndicat, aux partenaires sociaux, au Fabrice Angéilly, et ensuite
il ne peut pas y avoir, il ne peut pas y avoir de concession à la matière. C'est tout le principe même de la réforme par points qui est contestable et qui entraîne une baisse du niveau des pensions. Inéluctablement, tous les pays qui l'ont mis en œuvre l'ont démontré, y compris, si je prends la Suède, c'est 92% des femmes ont perdu. Vous savez, de dire la loi va garantir, une autre loi peut l'enlever.
Une règle d'or dans le marbre de la loi, c'est extrêmement compliqué.
Et y compris sur le paritarisme, je m'interroge si vous permettez, c'est le gouvernement qui fixe la feuille de route. Et on dit aux partenaires sociaux, je décide ça, mais dites-vous combien sera le malus, dites-vous la valeur du point. C'est, excusez-moi le terme, un foutage de gueule.
Un foutage de gueule pour Fabrice Angéilly. Olivier Véran, vous dites la main tendue. On va voir, on débat point par point, justement, les femmes, les enseignants, les points, justement, la valeur du point. On en discute dans un instant.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. 18h32, vous écoutez Nathalie Lévy, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1.
Notre grand forum post-annonce d'Edouard Philippe sur les retraites dans un instant. D'abord, les derniers titres avec vous, Sébastien Krebs.
Ma porte est ouverte, redit Edouard Philippe, après les très vives réactions des syndicats face à la réforme des retraites annoncée. La CGT appelle à renforcer la grève et le front syndical menace de s'élargir avec la CFDT, bureau national en cours ce soir. Et puis côté politique, la réaction de Marine Le Pen, elle appelle à retirer le projet de réforme.
En réalité, il a accumulé les mauvaises nouvelles. Il n'entend pas revenir sur cette réforme du système de retraite qui va faire que des perdants. Je soutiens ceux qui s'opposent à cette réforme. Je demande au gouvernement de la retirer. Et s'il ne souhaite pas la retirer, je lui demande à tout le moins de faire ce qu'on fait dans une démocratie, à savoir mettre en place un référendum pour que les Français puissent s'exprimer sur une réforme qui va tous les toucher et qui va tous, en l'occurrence, les précariser.
Vous sentez venir un durcissement de la situation sociale dans les jours qui viennent?
Je pense qu'il est possible, effectivement, qu'il y ait un durcissement pour une raison simple, c'est que tout le monde va être victime de cette réforme du système de retraite et tout le monde va voir sa retraite et sa pension baisser. Rien de ce qui a été soulevé n'a eu de réponse de la part du Premier ministre.
Marine Le Pen au micro de Lionel Gougelot. Sur les rails, très peu d'évolution pour demain. 8e jour de grève, un train sur 4 environ. Et à Paris, 10 lignes de métro fermées. Le reste de l'actualité, c'est le recueillement à Strasbourg. Un an après l'attentat du marché de Noël. Nous serons sur place dans le journal de 19h. Et puis la Ligue des Champions, le PSG reçoit Galatasaray ce soir au Parc des Princes. Match sans enjeu sportif, mais à haut risque côté sécurité.
Sébastien Krebs qui revient à 19h pour de nouvelles infos. Merci. Marlène, des pluies, des vents au menu?
Oui, on surveille déjà un coup de vent pour la journée de vendredi dans le sud du pays. On va surveiller aussi les avalanches spontanées en montagne en raison des précipitations abondantes et du redoux. En attendant, ce qu'il faut retenir pour la journée de demain, ça va être rapide. Un bon passage pluvieux sur une moitié ouest du pays avec des vents qui se renforcent. De bonnes chutes de neige sur la partie ouest des Pyrénées. Attention, risque d'avalanche de niveau 4 sur 5. Et puis ça va s'améliorer sur le flanc est du territoire. Beaucoup de soleil du matin au soir en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Du côté des températures, elles plafonneront entre 4 et 8 degrés du nord-est à Rhône-Alpes avec 8 à Lyon. Ailleurs, il fera généralement 7 à 13 avec 10 à Paris, 13 à La Rochelle et jusqu'à 15 à Biarritz.
Europe 1.
Grand forum spécial ce soir dans votre grand journal du soir. Jusqu'à 19h, on parle de la réforme des retraites avec vous, Nathalie Lévy, et vos invités, Fabrice Angéilly de la CGT, Frédéric Dabi de l'IFOP, Olivier Véran, député de La République En Marche, et Gérard Carrérou.
Merci Marlène. On va se retrouver dans un instant tous les quatre dans ce studio avec les annonces qu'on va regarder de près, notamment la valeur du point. Est-ce que vous êtes rassuré, Fabrice Angéilly? Vous allez nous le dire dans une seconde.
Nathalie Lévy jusqu'à 20h sur Europe 1. Grand forum spécial ce soir dans votre grand journal du soir avec vous, Nathalie Lévy, et vos invités.
Le temps du système universel est venu et celui des régimes spéciaux s'achève. Mais dans quelles conditions et avec quel calendrier? La question reste plutôt entière. Hein. Je voudrais qu'on écoute et qu'on voit un petit peu ce qu'on peut soulever comme point particulier ce soir. Édouard Philippe s'est penché sur la valeur du point. Est-ce que c'est de nature à vous rassurer, Fabrice Angélil? Écoutons le Premier ministre.
Nous nous engageons donc à ce que la valeur du point ne soit pas fixée à la sauvette au gré des difficultés budgétaires. Nous demanderons aux partenaires sociaux de fixer sa valeur et son évolution sous le contrôle du Parlement. La loi prévoira une règle d'or pour que la valeur des points acquis ne puisse pas baisser. La loi ira même au-delà, puisqu'elle prévoira une indexation progressive, non pas sur les prix, comme aujourd'hui, mais sur les salaires qui, dans notre pays, augmentent plus vite que l'inflation.
Fabrice Angélil, secrétaire confédéral de la CGT, est-ce que là vous dites qu'il y a une avancée? On y est?
Aucunement.
Mais comment vous pouvez dire ça? Pardonnez-moi, c'est vous qui allez le fixer. C'est vous qui allez le fixer.
Non, le gouvernement, enfin, on a coupé le discours du Premier ministre qui dit que si les partenaires sociaux, entre guillemets, terme que je n'apprécie guère, donc si les organisations syndicales et patronales ne se mettent pas d'accord, le gouvernement reprendra la main pour la fixer. C'est exactement ce qui s'est passé sur la réforme de l'assurance chômage. On est dans ce cadre-là. Vous savez, la valeur du point, elle va pouvoir fluctuer selon chaque année, la valeur du point. Et il y a bien dedans, et c'était dans le rapport de Levoix, il y a bien dedans les considérations.
Mais donc quoi, c'est une entourloupe du nombre... C'est une entourloupe.
Bien sûr.
Frédéric David, bien sûr, Gérard Carrérou, Olivier Véran, vous allez répondre sur l'entourloupe.
Un mot. Ça va être un point central sur la bataille de l'opinion. L'acceptation de cette règle d'or comme une vérité et voir cette question de la retraite par points s'effacer au profit d'un élément qui suscite une approbation chez une majorité de Français, le principe d'universalité et le fait qu'il soit défavorable à 60% au maintien des régimes spéciaux. C'est ce qui avait permis à Nicolas Sarkozy en 2007 de faire passer sa réforme.
Gérard Carrérou.
Écoutez, ce n'est pas forcément une entourloupe. Vous dites entourloupe. Je ne crois pas que c'est une entourloupe si le système est financé. Autrement dit, si le système est financé par l'allongement, effectivement, de la cotisation, de la durée de cotisation, à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'abaisser la valeur du point. Mais le problème, c'est de concilier les deux choses. Or, on a bien vu que quand on essaye d'ajouter l'une à l'autre, ça ne marche pas.
Bon, Olivier Véran, vous avez entendu M. Angélil, répondez-lui, rassurez-nous ce soir sur cette manière de fixer le point. Parce que c'est comme si, en fait, on vous renvoyait la patate chaude, mais qu'en définitive, on allait vous la reprendre. Et en fait, j'ai tout compris, merci.
C'est ceinture, bretelle et plus encore. La ceinture, c'est la règle d'or dans le marbre de la loi qui écrira que la valeur du point ne peut pas baisser. Les bretelles, c'est l'association des organisations syndicales chaque année pour vérifier que cela est respecté. Et quand je dis bien plus encore, deux choses très rapidement. D'abord, la durée, c'est que cette réforme va se mettre en place jusqu'en 2065. Je vous répondrai si vous voulez, mais il faut juste attendre 2065 pour que l'ensemble des salariés aient pris leur retraite et qu'ils puissent bénéficier du nouveau système de retraite. Donc on ne va pas y revenir dans les décennies à venir. Et le dernier point, pardonnez-moi, là c'est le député qui vous dit ça, on ne va pas chaque année remuer le couteau dans la plaie de la question de valeur du point au Parlement, sinon chaque année on aura des mouvements sociaux comme ça. Donc on n'est pas non plus complètement fada non plus. Donc rassurez-vous, honnêtement, le Premier ministre a été extrêmement clair sur cette question-là. Moi, à titre parlementaire, j'ai été rassuré.
Mais de toute évidence, ce n'est pas de nature à rassurer les syndicats. Oui. Frédéric Dabi est au téléphone avec une
Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Gérard, qui dit l'acceptation de la règle d'or et du point passe par le fait que le système soit sauvé en allongeant la date de départ à la retraite. Sur le papier, je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas le calcul et ce n'est pas la perception ou la logique d'opinion que les Français ont, puisque eux, et ils sont très énervés de ça, ils sont sur une logique de der. C'est-à-dire à chaque nouveau gouvernement, une nouvelle réforme. C'était la réforme Fillon qui avait été acceptée de 60 à 62 ans. Repasser à 64 ans, c'est pour ça que ça sera difficile à faire passer. C'est l'idée qu'on remet le métier, l'ouvrage sur le métier.
Laurent Escuret est avec nous, secrétaire général de l'UNSA. Bonsoir, merci de nous répondre ce soir. Premier syndicat à la RATP, second à la SNCF. Fin de régime spécial, vous avez compris, vous, à quel moment ça s'appliquerait, pour quelle génération d'agents? Génération 85, c'est ce qu'on a compris cet après-midi, en tout cas.
Oui, mais on n'a pas compris ça. Nous, on a un vrai problème à l'UNSA, au niveau global, qui va d'ailleurs nous amener à faire une mobilisation plus globale, avec sans doute une journée de grève à laquelle on va appeler mardi prochain. Sur ce sujet, l'absence de garantie sur des secteurs clés comme les transports sur leur contrat social, sur l'éducation, la fonction publique territoriale, sur les policiers, la fonction publique hospitalière. Donc ces garanties dont on nous parle, qui ne sont pas posées, posent un souci. Le fait que la pénibilité n'y ait pas grand-chose et que du coup on devrait une ouverture de négociations sérieuses sur la question de la pénibilité. Et enfin, là aussi, la règle rouge, la ligne rouge, où on a une mesure punitive paramétrique, non pas à cause de l'âge pivot qui était déjà un problème, mais à cause du fait que dès 2022, on va faire travailler l'ensemble des salariés actuellement présents dans les régimes plus longtemps.
Attendez, donc, deux questions, Laurent Escure, rapide et deux réponses rapides, s'il vous plaît. Discutez avec la direction de la SNCF et de la RATP dans ce qui vous concerne. C'est ce qu'a dit Édouard Philippe. C'est possible, il y a de quoi discuter.
Ben, il faut qu'ils convoquent nos fédérations concernées pour discuter. Nous, à l'UNSA, on négociera jusqu'au bout. Notre porte sera toujours ouverte. Notre main sera toujours tendue. Mais là, en l'occurrence, ce qui est tendu, c'est cette mesure paramétrique et cette absence de réponse concrète pour l'instant sur les garanties qu'on attend. C'est pour ça que l'UNSA, au niveau global, ce qui n'était pas le cas pour l'instant, appellera à la grève avec ses partenaires habituels du camp syndical capables de négocier mardi prochain.
Mardi prochain, vous appelez à la grève. Mardi prochain, c'est ce que vous nous dites ce soir sur Europe 1. L'UNSA appelle à la grève mardi prochain. On se retrouve dans un instant. Restez avec nous, Laurent Escure, nos invités également dans ce studio. On continue. Voilà, l'UNSA qui appelle ce soir à la grève.
18h-20h, c'est votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy sur Europe 1. Il est tout juste 18h45 et ce soir dans votre grand journal du soir, un grand forum spécial pour décrypter les mesures annoncées par le gouvernement avec vous Nathalie Lévy et vos invités.
Laurent Escure, on est en ligne avec vous, secrétaire général de l'UNSA, premier syndicat représentatif à la RATP, deuxième à la SNCF. Je voudrais vous poser la question très simplement parce que vous nous dites mardi que vous rejoignez le mouvement. Vous appelez ce soir à la CFDT à entrer dans le mouvement avec vous ?
Non, la CFDT, on est en contact pour rester sur une ligne syndicale et pas sur des convergences de lutte. On verra ce que dira le bureau national de la CFDT.
Mais est-ce que vous, personnellement, vous les appelez à vous rejoindre ?
Non, mais moi, je n'ai pas appelé les autres à rejoindre. On se parle très souvent avec les partenaires réformistes avec lesquels on travaille. Nous, on a obtenu des garanties pour les salariés qui ont été annoncées par le Premier ministre. Mmh. Mais là, avec cette mesure paramétrique notamment, et l'absence de réponse et de garantie pour des secteurs, et cette absence de clarté sur la pénibilité, là, on est en train de plomber la réforme. Et donc, nous, on continuera à négocier jusqu'au bout, mais on appelle à une mobilisation plus forte mardi prochain autour de cette question de la punition des salariés actuels par une mesure paramétrique dès 2022.
Merci beaucoup, Laurent Escure, de nous avoir répondu ce soir. Vous appelez à une mobilisation plus importante dès mardi prochain. C'est ce que vous nous dites, Olivier Véran, votre réaction. Comment, quel cadre, les régimes spéciaux ? On n'y comprend rien, on n'a pas de détails. On voit que vous ramenez à la négociation à la direction de la SNCF, à la RATP. En auront-ils les moyens ? Vous entendez les réactions ? Pourquoi ce flou ? Pourquoi ce flou ?
Attendez, du flou, il y en a beaucoup moins qu'hier. Je peux vous dire que je faisais des plateaux hier, j'avais quand même beaucoup moins de données qu'aujourd'hui. Par exemple, on sait
ça
que...
Ça ne contente pas pour autant. Vous avez entendu l'UNSA.
Rentreront dans le nouveau système des retraites en 2022, ceux qui commenceront à travailler en 2022. Mmh. Rentreront dans le nouveau système des retraites en 2025, pour la part qu'il leur reste à travailler, celles et ceux qui seront à moins de 17 ans de la retraite. Ça veut dire qu'il y a quand même une grosse partie des Français qui nous écoutent.
Est-ce que c'est acceptable de diviser les uns contre les autres ?
Non mais attendez, pourquoi est-ce que
c'est acceptable ?
Pourquoi ? C'est pas une volonté de diviser, c'est pas non plus reculer. Non, c'est uniquement des questions techniques, monsieur. C'est uniquement des questions techniques. Sur une question comme celle-ci, moi j'ai 39 ans, j'ai cotisé à 4 régimes de retraite différents. Je peux vous dire qu'avant qu'on soit capable d'unifier ce que j'ai déjà fait avant avec le futur régime des retraites dont je bénéficierai parce que je suis né en 80, mais c'est un process technique qui est extrêmement long. C'est de la même façon qu'on a pris le temps pour faire le prélèvement à la source et que ça s'est bien passé à l'arrivée. On ne va pas jouer avec la retraite. On ne va pas jouer avec la retraite des Français. On prend le temps technique nécessaire pour y
arriver. Ça n'a rien à voir. Pourquoi ?
Non mais tout le monde voit bien que cette histoire donc des âges différents, non plus personne ne comprend quel âge c'est parce qu'on renvoie des négociations dans les entreprises sans qu'elles aient les moyens. Parce que moi je rappelle qu'aujourd'hui, le gouvernement n'honore pas le contrat de plan qu'il a avec la SNCF. Donc il manque plusieurs milliards de financement. Donc on va les trouver où ? Comment ça va être financier ? Plus que le flou, mais
50 milliards.
Tout ce qui est mis là-dessus, c'est... Sans le dire quelque part, c'est ce que propose le gouvernement pour ne pas manger son chapeau, c'est de dire on ne fait pas la clause du grand-père, mais on va faire un peu plus que ce qui était prévu. Et pour nous, c'est inacceptable. On ne peut pas sacrifier les générations futures ou avoir des divisions dans les entreprises entre salariés sur la date à laquelle ils sont rentrés.
Je veux dire, c'est
pour ça qu'on demande
de
retrait du projet et de négocier l'amélioration.
Je suis partie de la génération future qui bénéficiera du nouveau système. Moi, je veux en bénéficier de ce nouveau système. Il est plus protecteur. Je veux pouvoir en bénéficier de ce nouveau système. Je n'ai aucun problème à le dire. je veux bénéficier de ce nouveau
Gérard
système.
Gérard Carrérou, l'âge de 64 ans, et on entend Fabrice Angéry, l'âge de 64 ans, cet âge pivot, il ne passera pas dans les dépôts. Il ne passera pas dans les dépôts.
Il ne passera pas parce qu'il fallait qu'il passe avant. Vous savez, on a fait des réformes avant. Il y a des gouvernements de droite ou de gauche qui ont négocié avant. Elles avaient, par exemple, quand on veut avoir la CFDT avec soi, il vaut mieux faire un deal avant. Or là, il n'y a pas eu de deal. Il avait pourtant mis une ligne rouge et on s'est dit, certains se sont dit au gouvernement, on va passer par-dessus la ligne rouge. Eh bien non, on ne pourra pas passer la ligne rouge. Et elle va sûrement être confirmée ce soir. Et à partir de là, ça veut dire qu'il y aura tous les syndicats sous des prétextes un peu différents, mais on aura tous les syndicats dans
derrière
la
une même banderole. Frédéric Dabi.
Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, l'intervention du Premier ministre, qui était quand même structuré avec une réforme qui est non seulement systémique, paramétrique, et c'est la réforme des régimes spéciaux, c'est 95 et 2007 en une seule fois, n'a pas, je dirais, empêché cette logique de confrontation, ces deux trains qui filent en pleine vitesse, comme avait dit qui vous savez, c'est-à-dire d'un côté Emmanuel Macron qui joue sa posture réformatrice du quinquennat et donc son socle, ce que j'appelle la Sainte Alliance entre les sympathisants de droite et ceux de la République En Marche sur la question des réformes, et le mouvement social qui ne peut pas pour l'instant reculer. Et je pense qu'avoir fait, avoir dit on va passer en 75, on va différer les âges, c'est justement un moyen de je dirais fédérer encore plus fortement le mouvement social, parce qu'on accuse souvent les syndicats et la CGT en particulier de jouer ses intérêts et pas seulement l'intérêt général.
Fédérer au niveau des âges, mais fédérer aussi au niveau des corporations. On va entendre les enseignants dans un petit instant, parce que je vous le dis, Olivier Véran, ils sont très remontés aussi.
Jusqu'à 20h, vous écoutez Nathalie Lévy, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1. 18h51, la suite et fin de ce grand forum spécial dans votre grand journal du soir avec vous, Nathalie Lévy, et vos invités.
Et oui, ce grand forum pour essayer de comprendre, essayer de sortir ce qu'il y a de bien et de concret et d'avancer dans les annonces d'Edouard Philippe ce soir et puis ce qui continue de cristalliser. On attend la réaction ce soir de Laurent Berger pour la CFDT. Nos invités en tout cas, et du côté des enseignants, l'annonce qui a été faite par le Premier ministre, pour l'instant, elle ne contente pas. Écoutez Aline Becker, directrice d'école à Antony dans le 92, propos recueillis par Jeanne Bergaoui.
C'est surtout très incohérent puisqu'il parle d'un niveau de retraite sanctuarisé, comparable à des fonctionnaires et de situations équivalentes. Je ne sais pas ce que ça veut dire, des fonctionnaires de situation équivalente. Est-ce que c'est en termes de niveau de diplôme, de métier, de rémunération? Ça n'a rien de cohérent. Il nous parle d'une revalorisation pour l'ensemble des enseignants avant la fin du quinquennat. Et juste après, il annonce que le ministre de l'Éducation va recevoir l'ensemble des partenaires sociaux pour des discussions qui vont s'étendre sur plus de 10 ans. Donc il y a une incohérence totale. Et là, on n'a pas de réponse actuellement.
Alors, absence de cohérence, absence de précision, Olivier Véran, pour les enseignants. En fait, on ne sait toujours pas. On a entendu depuis 10 jours, 15 jours maintenant, on a entendu qu'il y aurait une revalorisation de salaire, mais on ne sait toujours pas comment, ce qu'il propose pour compenser cette fin du calcul des pensions sur les 6 derniers mois. C'est quoi les chiffres?
Dès 2020.
Mais non, mais...
Dès 2020, vous dites que c'est flou, pardon. Sur la question des enseignants...
Mais les chiffres, les engagements, la date, pas le calendrier.
Sur la question, alors, un chiffre, 500 millions d'euros, c'est ce qui a été annoncé par le gouvernement.
Il faut 10 milliards. Pour la retraite des enseignants.
500 millions d'euros de revalorisation des salaires des enseignants. Le début 2020. Poursuite des discussions 2021-2022, engagement à ce que les pensions de retraite des enseignants ne baissent pas. Et je vais vous dire un truc, si cette réforme des retraites est l'occasion de mettre sur la table la question des rémunérations, de la pénibilité de certains métiers d'ailleurs, s'agissant des aides-soignants, mais la question de la rémunération, s'agissant des enseignants, tant mieux qu'on aborde ces questions-là dans leur ensemble. Mais
Fabrice Angéry, il y a un geste qui est fait. Le gouvernement, écoutez, non, ça va coûter quelque chose.
Vous savez, le geste qui serait fait, c'est augmenter le point d'indice, ça rapporte... Donc ça rapporte en termes de cotisation à la sécurité sociale et pour payer les retraites, et on n'a pas besoin de cette usine à gaz.
Mais Fabrice Angéry, il y a quand même des choses qui sont faites. Le point qui sera donc ce sera dans vos mains, les partenaires sociaux.
Ce sera pas...
les femmes, il y a des choses aussi qui sont faites pour les femmes, pour les retraites.
8 millions de femmes
enseignants,
sont gagnantes.
Les enseignants.
8 millions de femmes
sont gagnantes. Et il y a rien qui ne qui...
Mais non.
Rien
c'est
qui
un
vous
système
pur.
Non, c'est un système qui va accroître les inégalités. C'est un système particulièrement injuste et qui individualise. Il n'y a aucune solidarité là-dedans.
Je peux vous interroger juste sur un point, pardon,
oui.
Nathalie Véran.
Un mot, j'ai regardé sur Frédéric Dabi.
Il est proposé, par exemple, que l'âge maximum de travail pour bénéficier de son taux plein ce soit plus 67 ans, mais 65 ans. Ce qui veut dire que il y a.
Mais si vous avez une pension ridicule, vous travaillerez plus longtemps. Vous avez plus, ça, c'est de l'absurdité, vous avez c'est de la langue du bois.
Non, non, il y aura plus de décote, plus de décote.
Mais vous si avez vous, plus, avez, vous avez plus de décote, mais si vous avez une pension minimale,
j'entends ce que
si
vous
avez une pension minimale
dites,
et une carrière hachée, y compris les 1000 euros, je vous entends, parce que les 1000 euros, c'est une carrière pleine payée au SMIC. C'est pas une carrière hachée.
Je vous parle pas des 1000 euros, je vous parle de plus de 100 000. Je vous parle de plus de 100 000 femmes qui sont obligées de travailler jusqu'à 67 ans.
Non, mais les 1000 euros, comment vous allez faire? Comment vous allez faire pour cet argent? Vous le sortez d'où?
Pour les 1000 euros, ouais, c'est financé, ça fait partie de la participation solidarité qu'il y a dans le système des retraites. Nous avons le même pourcentage de solidarité
qui réjouit M. Gattaz, qui réjouit avec le président du MEDEF.
C'est-à-dire à peu près un quart.
Gérard Carrère ou Frédéric David.
Vous avez 100 000 femmes qui bossaient jusqu'à 67 ans, qui pourront s'arrêter 2 ans ou 3 ans plus tard.
Frédéric David,
ça, c'est de la solidarité.
Et on va conclure.
Quand même, on n'a pas parlé de deux points qui ont été présentés.
On
ne
peut pas tous les faire.
Mais je très bien, je ne vous mets pas en cause, ma chère Nathalie. C'est l'idée. On sait très bien que pour qu'une réforme passe auprès des Français, il faut qu'il y ait le sentiment que les efforts soient équitablement réparti et que l'État donne l'exemple en premier. Il y a quand même eu l'idée que les élus seraient concernés par une retraite
générale.
Mais
c'est comme si ça avait été oublié. Hein.
Oui, mais ça n'a pas été dit.
Non,
le fait qu'au-dessus de 120 000 euros bruts par an, c'est-à-dire ça concerne 300 000 Français et qui sont en gros dans l'écosystème, le cœur de cible de l'électorat macronien, serait taxé au-dessus de 120 000 euros.
Gérard Carrère.
Écoutez, gagner ce soir pour le président de la République et le Premier ministre, c'était décrocher la CFDT
et l'UNSA.
Et l'UNSA du bloc dur CGT Force ouvrière. Le résultat de ce soir provisoire, c'est que pour l'instant, tous les syndicats, plus ou moins, seront dans la rue.
Fabrice Angéli, pour la CGT, vous nous dites quoi? Rendez-vous mardi prochain dans la rue,
ce week-end, il y aura également des actions. Et voilà, moi je vais le dire très...
Non mais attendez, ça peut aller jusqu'à Noël comme ça?
Mais j'allais vous le dire très solennellement, d'une manière très grave, parce que ça fait plaisir à personne, la grève, ça réjouit personne. Mais aujourd'hui, c'est le gouvernement s'entête. Et on voit bien que le front s'élargit, le front du refus. S'il s'entête à vouloir maintenir cette réforme, il n'y aura aucune trêve de confuseur.
Voilà, c'est fait, c'est dit, c'est sur Europe 1. Merci à tous les quatre d'être venus, d'avoir participé à ce forum. De toute évidence, le bras de fer, on est encore en plein dedans. Merci à tous.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
L'info dans un instant, c'est Sébastien Krebs, le retour pour évidemment les nouvelles réactions, le flou, on l'a vu dans cette édition. Et puis les différentes attentes autour de la CFDT, on verra si Laurent Berger a enfin parlé.
Votre grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h sur Europe 1. Jusqu'à 20h, c'est votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec le programme, je vous le livre en direct. 19h10, l'invité politique Damien Abad, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée et député de l'Ain, pour réagir aux annonces d'Edouard Philippe. 19h20, demain, et oui, vos rendez-vous pour regarder l'avenir, demain en France, demain dans le monde, demain dans nos vies. Et puis à 19h30, on décrypte ensemble toutes ces mesures annoncées pour cette réforme des retraites. On en a parlé, mais on veut plus d'éclairage, plus de détails grâce à Emmanuel Duteil et grâce à vos questions au 39-21.
Votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, Sébastien Krebs. Europe 1, il est 19h.
Ça commence à être embêtant, mais maintenant très embêtant. Au début, on se dit, tiens, bon, mais après, dans la routine, non, hein. C'est une honte.
La lassitude chez beaucoup d'usagers ce soir après les annonces d'Edouard Philippe. Peu d'espoir d'une sortie de crise, le front syndical semble même se durcir.
La CFDT bascule dans le camp des opposants à la réforme, bureau national réuni en ce moment.
Strasbourg se recueille un an après l'attentat du marché de Noël. Une cérémonie débute à la cathédrale, nous irons sur place. Et puis le retour des Balkany au tribunal, procès en appel.
Et la tendance météo, c'est avec vous Marlène.
Oui, l'ouest du pays sera sous la pluie, c'est une nouvelle perturbation qui déboule. De la neige en montagne, en particulier sur l'ouest des Pyrénées avec une alerte avalanche. Et puis une belle journée de l'aube au coucher pour la Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Mais d'abord revenons sur les principales annonces du jour. Le détail de cette réforme des retraites qui a été présentée par le Premier ministre à midi devant le Conseil économique et social. Le temps est venu de construire un système universel, a dit le Premier ministre. Alors qui sera concerné et quand? Les réponses avec Emmanuel Duteil.
La réforme va entrer en vigueur en 2025. Ce sont ceux qui sont nés à partir du 1er janvier 1975 qui sont concernés. Ceux qui sont dans des régimes spéciaux vont avoir un petit peu plus de temps pour s'adapter en fonction de l'âge de départ à la retraite. Là, ce sont les classes d'âge 1980 ou 1985 qui vont être concernés par la réforme à la SNCF ou à la RATP, par exemple. Ceux, en revanche, qui sont nés en 2004 entreront dans la réforme dès 2022 et ce seront donc les premiers. Avec la réforme, chaque euro cotisé va maintenant ouvrir des droits droit et va nous permettre d'avoir des points. La valeur de ce point ne pourra pas baisser et ce point sera revalorisé en fonction de la hausse des salaires et non pas en fonction de l'inflation. Les retraites ne pourront pas être inférieures à 1 000 euros pour une carrière à temps plein et les salaires des profs vont être revus à partir de 2021 car ils allaient être les grands perdants de cette réforme, mais c'est encore flou sur la méthode. En revanche, il va falloir travailler plus, ça c'est une certitude. Si l'âge légal reste à 62 ans pour partir avec une retraite à taux plein, il faudra travailler jusqu'à 64 ans.
Emmanuel Dutheil, qu'on retrouve tout à l'heure et qui répondra à vos questions au 39-21.
Et même si Édouard Philippe a promis qu'il n'y aurait ni vainqueur ni vaincu, que cette réforme n'était pas une bataille, eh bien la hache de guerre est loin d'être enterrée ce soir. Front uni des syndicats contre la réforme.
Ben oui, parce que ce qui coince, c'est cette forte incitation à travailler jusqu'à 64 ans. Ceux qui partiront avant seront pénalisés.
Une ligne rouge pour la CFDT, qui est pourtant favorable à cette retraite par points, mais qui bascule dans le camp des opposants. Bureau national réuni ce soir pour envisager un appel à la mobilisation. Ce serait un tournant. La CGT, elle, appelle à renforcer la grève. Ma porte reste ouverte, a répondu Édouard Philippe.
Demain, donc, très peu d'évolution sur le terrain. Ce sera le 8e jour de grève. Un train sur 4 prévu à la SNCF.
Et en région, 4 liaisons TER sur 10 pour les usagers. Les difficultés continuent, notamment à Lille, où on vous retrouve, Maximilien Carlier.
Oui, effectivement, et dans la gare Lille-Flandre, les quelques trains sont bondés. Beaucoup de personnes observent les panneaux d'affichage pour connaître les horaires. Christelle veut retourner chez elle, mais petit problème, TER annulé au dernier moment. Elle vient d'apprendre que le mouvement de grève se durcit. On sent la colère monter.
Ah ben non, il est supprimé. Il n'y a pas d'annonce, il n'y a rien. J'ai un petit enfant à aller récupérer à la crèche, et ben je dois me débrouiller. Qu'est-ce que je vais faire? Moi aussi, la retraite, je la subis, mais c'est quand même des privilégiés. Je comprends, hein, ils ont signé un contrat. Mais moi aussi, en travaillant dans le privé, j'ai signé un contrat aussi. Et voilà, je subis quand même tous les problèmes.
Le ras-le-bol également de Didier, il regarde les prévisions sur son smartphone et se demande comment il va faire pour se rendre au travail demain.
Ça commence à être embêtant, mais maintenant très embêtant. Au début on se dit tiens, bon, mais après dans la routine, non. C'est dommage pour la SNCF parce qu'ils prennent les voyageurs en otage. C'est une honte.
En revanche, pour certains usagers comme Grégory, il n'y a aucun problème au fait que la grève se poursuive.
Ça se comprend, c'est normal. Ben moi, je le prends bien. Franchement, ça ne me pose pas de problème. Tous les matins, je pars plus tôt, j'arrive une heure avant mon boulot, mais bon, faut les comprendre, les gens aussi.
Et demain, le trafic ferroviaire sera encore perturbé dans les Hauts-de-France. 3 TER sur 10 vont circuler et 2 TGV Nord sur 5.
Maximilien Carlier en direct de Lille en région parisienne. On attend un Transilien sur 4 et à nouveau 10 lignes de métro fermées à la RATP.
Et ce soir, le gouvernement annonce des mesures pour venir en aide aux entreprises du tourisme affectées, très affectées en Île-de-France.
Les entreprises du secteur de l'hôtellerie-restauration notamment pourront bénéficier d'un étalement du paiement de leurs charges fiscales et sociales et de mesures de chômage partiel, annonce du ministère de l'économie.
Ouais, des mesures équivalentes à celles des Gilets jaunes l'année dernière. Strasbourg qui se recueille ce soir, un an après l'attentat du marché de Noël.
5 morts l'an dernier lorsqu'un tireur a ouvert le feu dans les rues piétonnes. Une cérémonie œcuménique vient de débuter à la cathédrale de Strasbourg où vous vous trouvez, Arthur Mbaché.
Oui, bonsoir. Il y a des images projetées dans le cœur de la cathédrale, des dessins, des textes de ceux déposés spontanément, vous savez, par les Strasbourgeois sur les lieux de l'attaque peu après l'attentat. Les victimes sont là dans les premiers rangs. La cathédrale est presque pleine, encore plongée dans l'obscurité alors que la cérémonie s'apprête à débuter. Ici, ce soir, il va donc y avoir 2 heures de cérémonie avec comme temps fort plusieurs prises de parole de victimes de l'attentat, des chants, de la musique. Ce sont les victimes elles-mêmes qui ont organisé la chose et qui voulaient un moment simple, sobre, de recueillement, mais un moment joyeux. Voilà, ça devrait s'achever vers 21h. Et puis dans 45 minutes, un petit peu moins, dans 40 minutes, ça fera un an précisément que le terroriste démarrait sa déambulation criminelle au marché de Noël. Eh bien, ce soir, les cloches des églises de toute la ville vont sonner à 8h moins le quart et les Strasbourgeois sont invités à déposer une bougie à leur fenêtre.
Voilà l'émotion à Strasbourg avec Arthur Mbaché en direct. À l'étranger, J-1 avant une journée cruciale en Grande-Bretagne. On vote demain pour les législatives. Scrutin qui s'annonce serré selon les derniers sondages entre le Premier ministre Boris Johnson et le leader travailliste Jeremy Corbyn.
Et on vote aussi en Algérie demain pour une présidentielle à nouveau contestée dans la rue aujourd'hui. On va y revenir d'ailleurs avec Didier François demain dans Le Monde. C'est dans 20 minutes.
Le couple Balkany, de retour dans le box, procès en appel pour fraude fiscale. Le maire de Levallois a été extrait de sa cellule pour assister à cette première matinée d'audience aux côtés de son épouse. Un couple qui s'est affiché comme soudé, Marion Dubreuil.
Oui, à peine arrivé dans la salle d'audience, Patrick Balkany, pull beige et col de chemise rose, est accueilli par un baiser d'Isabelle. Le couple lunettes fumées, vous l'avez compris, fait bloc, même s'ils sont physiquement séparés par une rambarde. D'un côté, Isabelle Balkany, comparée libre. De l'autre, le maire de Levallois est détenu dans un box. Mal installé sur un banc sans dossier, l'élu de 71 ans, qui a perdu une vingtaine de kilos depuis sa détention, obtient finalement une chaise molletonnée. Pourquoi avoir fait appel, demande la présidente. Isabelle Balkany reconnaît avoir commis une faute. Une faute n'a jamais d'excuse, reconnaît-elle, mais elle a des raisons qu'elle a du mal à expliquer. Celle qui assure les fonctions de maire par intérim de Levallois-Perret se mélange dans les dates et les chiffres. Le couple joue une partition de duettiste. Patrick répond à la place d'Isabelle et vice-versa. La présidente tente bien de recadrer les débats sur la fraude fiscale. La défense de Patrick Balkany est la même qu'en première instance. Il dit avoir hérité de l'argent placé en Suisse par son père résistant. L'avocat général en conclut simplement que les Balkany contestent toujours les faits.
Marion Dubreuil depuis le palais de justice de Paris. Puis cette dernière information, des heurts signalées autour du Parc des Princes, PSG Galatasaray, match prévu à 21h ce soir. Match à haut risque du point de vue de la sécurité. Quand bien même il n'y a aucun enjeu sportif, puisque les Parisiens sont déjà qualifiés.
Sébastien Krebs pour l'info, vous êtes de retour à 19h30. Merci à vous. Du côté du ciel, Marlène, rebelote avec les pluies.
Eh oui, dès le matin, une nouvelle perturbation arrosera la pointe bretonne. Sur la façade atlantique, il n'y aura carrément pas d'arrêt entre les averses résiduelles de la veille et les nouvelles pluies qui débarquent. Elles pourront d'ailleurs se mêler à quelques coups de tonnerre, notamment vers le golfe de Gascogne. Et puis les vents vont se renforcer. Au fil de la journée, eh bien, il va pleuvoir sur la moitié ouest du territoire jusqu'à la Normandie. Au centre, à l'ouest de l'Auvergne et au Midi-Pyrénées, la région parisienne verra arriver progressivement la pluie. Beaucoup de pluie à prévoir d'ailleurs dans le sud de l'Aquitaine, vers la Vendée, le Poitou-Charentes, de la neige en abondance sur l'ouest des Pyrénées. À partir de 1200 mètres le matin, ça remonte un petit peu en journée avec le redoux. Attention au risque d'avalanche, 4 sur 5. Et puis on termine avec quand même du beau temps. Ça va aller en s'améliorant entre l'Alsace, la Franche-Comté et les Alpes du Nord. Soleil toute la journée pour la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les températures, elles se radoucissent sous les pluies pour atteindre en journée les 6 degrés à Nancy et Strasbourg, 7 à Lille, 8 à Lyon et Rouen, 10 à Paris, 11 à Angers, 13 à Brest, 14 à Bordeaux et jusqu'à 15 degrés à Biarritz.
Europe 1.
La suite dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec l'interview politique, bonsoir Aurélie Herbemont.
Bonsoir Nathalie.
Bienvenue dans ce studio, votre invité dans un instant.
Oui. Damien Abad, président du groupe LR à l'Assemblée nationale. On verra ce qu'il pense de la réforme des retraites présentée par Édouard Philippe.
L'interview politique, c'est dans votre grand journal du soir sur Europe 1. Jusqu'à 20h, vous écoutez Nathalie Lévy, la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, 19h11, place à l'interview politique.
Avec vous Aurélie Herbemont et votre invité ce soir dans ce studio, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, député de l'Ain, Damien Abad.
Bonsoir Damien Abad.
Bonsoir.
Âge d'équilibre à 64 ans, suppression des régimes spéciaux, la gauche est très sévère, mais ça devrait vous plaire chez LR.
Pas du tout. Le double langage du gouvernement conduit à la double peine pour les Français. Ils auront les blocages, l'immobilisme et en même temps la non-réforme des retraites. Parce que, pourquoi la non-réforme ? Parce que les régimes spéciaux, aucune date ou quasiment sur la sortie de ces régimes spéciaux,
pour
pas avant 2040.
Les cheminots et les conducteurs de trains RATP qui seront nés en 85, c'est un calendrier de sortie.
Ça veut dire pas avant 2040, ça veut dire qu'on reporte cette réforme au calendrier grec, ça veut dire qu'on ne veut pas mettre de la justice dans ce système des retraites. Et pire que ça, on n'équilibre pas financièrement ce système de retraite parce que le gouvernement n'a pas le courage de faire la seule mesure qui permet cet équilibre-là, c'est le repousser l'âge légal de départ à la retraite.
Vous êtes un peu sévère sur les régimes spéciaux parce que vous avez un calendrier, bon, peut-être un peu plus lointain que ce que vous auriez souhaité faire, mais la droite ne l'a jamais fait, supprimer les régimes spéciaux.
Vous savez, on nous dit souvent la droite n'a jamais fait. La droite, elle a fait la réforme en 93, elle a fait la réforme en 2003, et elle a fait la réforme en 2010. Elle a une vraie crédibilité sur ce sujet. Oui, il reste les régimes spéciaux. Les Français considèrent à juste titre que c'est injuste aujourd'hui parce que les conditions de vie et de métier ont changé, de continuer à financer un système par l'impôt et par le contribuable. Et attendre 2040 pour les réformes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va encore attendre pendant 20 ans qu'on puisse mettre en extinction ces régimes spéciaux. La droite le dit très clairement aujourd'hui, il faut prendre ses responsabilités dès aujourd'hui, il faut une application certes progressive bien entendu,
progressive
mais
quand progressive, même, vous le dites aussi,
mais immédiate. Progressive,
mais immédiate, comment
oui,
vous
ça
faites
dire concrètement ? Oui, ça veut dire qu'il faut que ça démarre rapidement. Il faut que ça démarre dès 2020. Comment peut-on accepter qu'une loi que l'on va voter peut-être en 2020 n'aura ses premiers effets qu'en 2027, qu'en 2030, voire en 2040, selon les dispositions qui seront appliquées ? C'est cela aujourd'hui qui n'est ni sérieux ni crédible. Ça veut dire que c'est la grande reculade et le président de la République n'a plus l'audace réformatrice de ses débuts.
Sur l'âge d'équilibre à 64 ans, vous allez nous expliquer en quoi c'est différent de ce que LR propose, puisque l'âge légal ne bouge pas, il reste à 62, mais on comprend bien en écoutant le Premier ministre qu'il va falloir travailler plus longtemps, sinon on subira une décote et donc jusqu'à 64 ans. En quoi c'est différent de bouger l'âge légal ?
Ce
qui est la position de LR.
La différence, c'est que la baisse des pensions va être la variable d'ajustement. C'est-à-dire que le gouvernement dit...
Vous en êtes sûr de ça ?
Bien sûr, parce qu'il y a une super décote qui va être mise en place. C'est-à-dire que si vous partez à 62 ans, qui est l'âge légal, au lieu de 64 ans, vous verrez votre niveau de pension baisser. Et nous, nous disons chez Républicains que notre fil rouge, ça doit être la non-baisse des pensions pour l'ensemble des retraités. Et donc, on préfère que tout le monde soit 64 ans, par exemple, ou 65 ans, et qu'on n'ait pas de perte de revenus et pas de perte de pension. Là, il y aura non seulement la perte de pension, mais il y aura aussi l'augmentation des impôts, parce que si on ne finance pas les systèmes de retraite, comment on va faire ? On devra recourir à l'impôt ou au déficit.
Ah oui, vous dressez un scénario extrêmement sombre
mais
de cette réforme.
Mais c'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'orientation des retraites qui a dit
que... Le gouvernement le dit, 2025, on ne veut pas baisser les pensions. Et on dit que les gens devront travailler plus longtemps.
Sauf que ce sont des garanties de papier, et tout le monde le sait très bien, pour une raison très simple. Le Conseil d'orientation des retraites a dit 2025, entre 8 et 17 milliards d'euros de déficit. Si on ne fait rien, on prend 8 milliards de plus par an. Comme la réforme ne va pas s'appliquer avant 2030 ou 2027, ça veut dire que vous allez avoir 20 milliards d'euros de déficit. Comment voulez-vous maintenir et garantir aux Français ce niveau de pension avec un déficit de 20 milliards ? Vous êtes obligé d'augmenter les impôts ou de baisser les pensions.
Alors, à droite, vous êtes contre le régime universel par points, c'est ça la base. Le Premier ministre a voulu poser des garanties assez strictes. Valeur du point qui sera indexée sur les salaires, partenaires sociaux qui fixeront sa valeur sous le contrôle du Parlement, règles d'or pour qu'il ne puisse pas baisser. C'est insuffisant, toutes ces garanties, pour vous ?
Ce sont des rustines sur un ballon crevé. La vérité, c'est que ce sont des garanties de papier. Prenons l'exemple, la revalorisation salariale des enseignants. Personne n'y croit parce qu'on n'a pas les moyens financiers pour le faire. La question des droits familiaux, la question des pensions pour les femmes et les mères de famille, on voit bien qu'il y a des trous dans la raquette. Le problème, ce n'est pas le système par points en tant que tel. Le problème, ce sont les conséquences de ce système. Les conséquences, c'est qu'il y a des trous dans la raquette pour les artisans, pour les indépendants, pour les professions libérales, pour les mères de famille, pour les avocats, pour toute une série de Français, les aides-soignants, qui sont mécontents. Et qu'est-ce qu'on répond ? Avec de la complexité, avec une multitude d'exceptions qui fait que ce n'est plus un régime universel, c'est un régime à choix multiples où plus personne n'y comprend rien et c'est la complexité qui est devenue un principe général.
Alors on n'a hélas pas le temps de revenir sur chacun des métiers que vous revenez. Je voudrais revenir quand même sur les agriculteurs. Avec ce nouveau système, le gouvernement promet une retraite minimale à 1000 euros pour tout le monde, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui pour les agriculteurs qui partent en retraite. C'est un électorat que la droite aime choyer. Pour les agriculteurs, vous ne dites pas « Ah bah quand même, ça c'est pas mal ?»
Si, l'idée d'une pension minimum à 1000 euros, c'est une idée que nous soutenons, que nous partageons. À condition...
quand même.
Ah oui, mais vous savez, on est une opposition responsable. Mais à une condition, simplement, c'est qu'il faut financer cette mesure. Parce que si vous la garantissez sans le financement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va augmenter les cotisations des indépendants, des artisans, pour financer la retraite à 1000 euros pour les agriculteurs. Et la deuxième chose que je voudrais que le gouvernement précise, c'est que j'ai entendu, pour les carrières complètes, au niveau du SMIC, il y a beaucoup d'agriculteurs qui n'ont pas forcément le niveau du SMIC. Donc, est-ce que ceux-là seront concernés par cette pension minimale à 1 000 euros ? C'est une question que je pose.
D'accord. Vous pensez qu'il potentiellement peut y avoir un loup et c'est une question que vous posez. La mobilisation syndicale s'amplifie. Même la CFDT est sortie très remontée contre la réforme. Nicolas Sarkozy avait dit, après sa réforme sur le service minimum en 2007, que désormais, quand il y avait une grève, personne ne s'en apercevait. Là, je pense que les Français commencent à s'en apercevoir. Est-ce qu'il faut revenir améliorer à l'avenir le service minimum ?
Je crois qu'à force de ménager la chèvre et le chou, à force de déminer à tout azimut, à force de vouloir faire une politique du en même temps, le gouvernement est en train de perdre sur les deux tableaux. Sur le tableau social, avec une crise sociale et politique majeure dans le pays, avec des syndicats qui ont le sentiment d'être floués, et en même temps sur le tableau de sa capacité réformatrice. Nous, nous regrettons que ce gouvernement perde son audace réformatrice. Les syndicats regrettent eux, que ce gouvernement, finalement, ne tienne un doute de langage avec eux, notamment sur la question de l'âge pivot. Et donc, vous voyez bien aujourd'hui ce qui se passe. C'est comme on n'a pas dit la vérité aux Français, comme on n'a pas voulu mettre un texte sur la table, comme on a attendu tellement longtemps pour que le Premier ministre vienne faire cette déclaration-là. Plus personne n'y croit, plus personne ne fait confiance. Et cette confusion-là, elle a créé un climat anxiogène. Et c'est ce climat anxiogène aujourd'hui qui paralyse le pays.
Vous dites que plus personne n'y croit, mais la semaine dernière, il y a eu un sondage que vous avez peut-être vu passer qui disait qu'Emmanuel Macron prenait 18 points d'opinion favorable chez l'électorat de droite. Est-ce que vous êtes si dur avec lui parce que vous craignez qu'une fois de plus, Emmanuel Macron marche sur les plates-bandes de la droite ?
Je crois de moins en moins. Je pense que désormais, l'audace réformatrice a changé de camp. Elle était peut-être chez le président de la République au départ. Elle doit redevenir chez les Républicains demain en étant une force de proposition et d'alternance crédible aux yeux des Français. À nous de dire, de tenir un langage de vérité, de clarté et de responsabilité. Comment un électeur de droite peut soutenir un président de la République qui va créer une situation financière explosive sur les retraites, qui va baisser le niveau de pension de la plupart des retraités et qui n'a pas le courage de dire la vérité sur l'âge légal en tant que tel? Honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'électeurs de droite qui partagent ces convictions-là.
Eh bien, on le saura sans doute dans les prochains jours. D'ailleurs, vous présenterez votre contre-projet demain à l'Assemblée pour les députés Les Républicains. Merci beaucoup Damien Abad d'avoir été mon invité.
Europe 1. Il est 19h20, Nathalie Lévy, à suivre.
Restez avec nous à 19h30, on décrypte ensemble toutes les mesures annoncées pour cette réforme des retraites. On répond à toutes vos questions avec Emmanuel dans ce studio. Prenez la parole au 39-21, c'est l'heure des précisions, de l'éclairage.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir, la suite sur Europe 1, Nathalie Lévy.
La suite, c'est une promesse, celle d'être toujours en avance sur Europe 1. Donc demain en France, demain dans le monde, demain en France, nous fait mettre le cap à l'ouest ce soir pour un anniversaire. François Coulon, bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
On célébrera demain les 20 ans du naufrage de l'Erika au large du Finistère. Hein.
Oui, un triste souvenir. Il y avait 30 000 tonnes de fuel lourd à bord de ce pétrolier affrété par Totalfina lorsque le navire, victime d'une défaillance de sa structure, s'est littéralement cassé en deux au cours d'une tempête provoquant l'une des pires marées noires subies en France. Oui. 400 km de côte maculée de bitume de la pointe de la Bretagne jusqu'à l'île de Ré.
Oui, cette image terrible, cette catastrophe, François, pour tout un secteur.
Vraiment. Ouais, vraiment, ce qui nous a le plus marqué ici, ce sont les oiseaux marins agonisants, englués dans le pétrole. On estime qu'au total, 200 000 à 300 000 volatiles sont morts dans cette marée noire. Et puis, tous les métiers de la mer et du tourisme ont été lourdement impactés. Pêcheurs, ostréiculteurs, paludiers, le nettoyage du littoral s'est prolongé pendant près de 3 ans.
Alors, pour conclure, est-ce que ce drame a servi à quelque chose, François ?
Alors oui, d'abord, après un long feuilleton judiciaire, Total a été reconnu responsable en 2012 et a dû verser près de 200 millions d'euros d'indemnités, en particulier aux collectivités. Et puis, c'est à la suite de ce procès que le préjudice écologique a été inscrit dans le Code civil. Enfin, le secteur pétrolier a considérablement changé ses pratiques, les assureurs poussant les opérateurs à être beaucoup plus exigeants sur la qualité des navires.
C'est au moins ça. Merci beaucoup François Coulon. À l'Ouest, avec vous, bien sûr. Merci. Demain dans le monde avec Didier François dans ce studio avec une élection à haut risque. C'est l'élection présidentielle en Algérie. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Pour désigner qui est bien successeur au président Abdelaziz Bouteflika, poussé à la démission, on s'en souvient, au printemps dernier, le 2 avril dernier, par une action conjuguée de la rue et de l'armée. 5 candidats en lice, mais rien ne va plus entre les militaires d'un côté et les contestataires de l'autre qui refusent en bloc ce scrutin.
Ah, effectivement, c'est tout l'enjeu du vote de demain. Quel sera le taux de participation avec une abstention qui s'annonce massive si l'on en juge par l'affluence aux manifestations qui se succèdent depuis 48 heures dans toutes les villes du pays pour appeler au boycott de ce scrutin. Alors à l'évidence, 9 mois de mobilisation n'ont en rien affaibli le mouvement de révolte qui a démarré, rappelons-le, en février dernier, justement contre l'élection présidentielle prévue à cette époque. C'est tout contre la 5e candidature d'Abdelaziz Bouteflika, pourtant en état de mort clinique et incapable de mener campagne. Le général Ahmed Raïd Salah, le chef d'état-major, pourtant très proche du clan présidentiel, avait alors semblé céder aux demandes des manifestants qui exigeaient une réforme totale du système. Mais depuis qu'il est au pouvoir, il tente évidemment de renforcer la position des caciques du régime. Et c'est lui qui, de fait, organise ce scrutin selon les modalités habituelles, après avoir refusé la moindre modification constitutionnelle. Et les contestataires se sentant floués, ils dénoncent cette élection comme une marche arrière du point de vue démocratique.
Parodie, mascarade, forfaiture, hein. Voilà tout ce qu'on entend. Les 5 candidats qui briguent la présidence sont tous, Didier, issus du régime.
Alors oui, on les appelle d'ailleurs les enfants du système. Tous doivent leur position à un accord passé avec la haute hiérarchie militaire qui dirige le pays depuis 1962, l'indépendance. Tous ont été soit ministres, soit chef de cabinet de la présidence, membre du bureau politique du FLN. Et le candidat qui apparaît comme ayant aujourd'hui les faveurs de l'armée, Azzedine Mouhabi, même s'il se présente comme un ancien journaliste et vaguement opposant, il n'a quitté son poste de ministre de la communication puis de la culture que 2 jours avant la démission d'Abdelaziz Bouteflika.
Ouais, ouais. Et l'Algérie s'est bien gardée de faire appel à des observateurs internationaux pour superviser ce processus électoral. On suivra ça avec vous. Merci beaucoup, Didier François. Demain dans nos vies, le rendez-vous pour nous projeter dans le monde de demain avec vous, Théophile Cossa. Bonsoir.
Oui, bonsoir, Nathalie.
Les grèves dans les transports, elles semblent bien parties pour durer. On l'a compris encore ce soir avec nos invités. Alors, on s'organise. Et évidemment, ce qui cartonne en ce moment, ce sont les applis de covoiturage, à ne pas confondre avec le covoiturage.
Oui, Nathalie, le covoiturage, tout le monde connaît. C'est rentré dans nos habitudes. Là, c'est le covoiturage qui est en train de devenir le nouveau moyen de transport à la mode pour se rendre au boulot.
Mais c'est quoi la différence avec le covoiturage?
Ben, en fait, c'est le même principe, mais sur des trajets quotidiens. Maison, travail, ça fonctionne par application. Que vous soyez conducteur ou passager, vous déclarez à l'avance sur l'appli vos trajets prévus, généralement toujours les mêmes. Hein. Puis, vous êtes mis en relation avec ceux qui ont le même itinéraire. Conducteur, vous ne changez quasiment pas votre route habituelle.
Marqué, c'est du bon sens.
Mais absolument. Et vous êtes rémunéré de quelques euros qui couvrent vos frais d'essence. Passager, vous êtes pris et déposé au plus près de chez vous ou de votre travail. Le tout gratuitement.
Ah, personne ne paye. Qui paye?
C'est là la vraie nouveauté. Ce sont les collectivités. En Ile-de-France ou à Nantes, par exemple, le covoiturage fait désormais partie du transport public. Bah oui, les sociétés de transport ont tout intérêt à désengorger à la fois les métros bondés et les rues pour mieux faire circuler les bus et les trams. Pour ça, elles incitent les usagers à utiliser ce nouveau type de mobilité. En Ile-de-France, par exemple, tous les détenteurs d'une carte de transport type Pass Navigo peuvent employer le covoiturage sans débourser un centime. L'occasion de faire des rencontres, de sympathiser avec ses voisins. Et si ces grèves étaient l'occasion de changer durablement nos façons de nous déplacer, vous en dites quoi?
Mais c'est pas mal.
Pas mal.
On essaye demain?
Pourquoi pas?
Moi, je vais essayer en tout cas. Merci beaucoup. C'était Demain dans nos vies avec vous, Théophile.
Europe 1.
À suivre, Nathalie Lévy.
Le rappel des titres est juste après 19h30. On fait le point très clairement. Vous posez vos questions, on vous répond. Surtout Emmanuel Duteil, spécialiste économie pour les annonces d'Edouard Philippe. Il vous décrypte tout, c'est promis. C'est en direct et c'est avec vos appels au 39-21.
Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Il est 19h30 et vous écoutez Nathalie Lévy. C'est votre grand journal du soir sur Europe 1.
Et c'est votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
Huitième jour, demain, la grève continue. Un train sur quatre prévu à la SNCF. Quatre liaisons TER sur 10 et à la RATP. 10 lignes de métro à nouveau fermées. La CGT appelle à renforcer le mouvement. La CFDT réunit son bureau national et pourrait rejoindre le front syndical. Son secrétaire général, Laurent Berger, estime qu'une ligne rouge a été franchie avec l'annonce d'un âge d'équilibre à 64 ans. Réforme des retraites annoncée aujourd'hui par Edouard Philippe, un régime universel par points à partir de 2022. Seront concernés tous les Français nés à partir de 1975. Dans le reste de l'actualité, l'icône de la défense du climat, la jeune Suédoise Greta Thunberg, désignée personnalité de l'année par le magazine américain Time. Les premières déclarations de Roman Polanski après les accusations de viol dans Paris Match. Il nie en bloc et estime qu'on veut faire de lui un monstre. Enfin, ces affrontements aux abords du Parc des Princes, heurts entre supporters et policiers ce soir et gaz lacrymogène avant le match classé à haut risque PSG Galatasaray en Ligue des Champions, pourtant sans enjeu sportif.
Sébastien Krebs pour l'info, vous revenez demain à 18h sans faute.
Et qu'est-ce qu'elle nous dit Marlène sur cette météo de ce jeudi?
Pensez au parapluie, elle vous dit. Une perturbation chasse l'autre, hein, comme on aime à le dire en météo, on aime bien dire ça. Hormis une petite zone de temps sec demain matin qui va s'étirer du Nord-Pas-de-Calais au bassin parisien, au Berry, au Nivernais jusqu'à l'est du Massif central, où il faudra compter avec les restes de la perturbation d'aujourd'hui sous forme d'averse, eh bien la nouvelle arrivera par la Bretagne avec beaucoup de pluie et elle va traverser comme ça les régions de l'ouest. Alors c'est la Vendée, le Poitou-Charentes et l'Aquitaine qui seront particulièrement touchées. De la neige en abondance dans la partie ouest des Pyrénées avec un risque d'avalanche de 4 sur 5. Et puis le soleil devrait prendre le dessus ce jeudi après-midi des Alpes du Nord à l'Alsace. Grand soleil toute la journée pour la Provence-Alpes-Côte d'Azur et les températures au petit matin, allez, elles seront comprises entre moins 1 degré à Valence et 9 à Porto Vecchio. Les maxi stationnaires ou en hausse afficheront 6 degrés à Grenoble, 9 à Orléans, 10 à Paris, Blois, Clermont-Ferrand, 13 à Brest et Toulouse, 14 à Nice et jusqu'à 15 à Biarritz.
Europe 1.
C'est votre grand journal d'histoire jusqu'à 20h et avec vous Nathalie Lévy.
Et avec Emmanuel Duteil surtout dans ce studio. Rebonsoir Emmanuel.
Rebonsoir Nathalie.
Merci de m'accompagner dans cette dernière partie où on va tenter d'éclairer nos auditeurs qui vont nous contacter au 39-21 parce que les annonces d'Edouard Philippe ne contentent clairement pas ce soir. On va y venir dans un instant. Pourtant il y a des choses, juste d'un mot Emmanuel. Quelle est la lecture que vous faites vous ce soir, 8h après la prise de parole d'Edouard Philippe, quand on voit qu'il lâche quand même du lest, le minimum retraite de 1000 euros, ça ce sera bien pour les agriculteurs par exemple, pour les familles nombreuses notamment, quand on voit que finalement seront concernés les
post-75, hein, post-année 75. Est-ce qu'il y a quand même des choses sur lesquelles on peut se dire bah, il nous a entendus?
Très clairement, il y a des choses. Mais souvenez-vous ce qu'a dit hier le Premier ministre devant ses troupes de La République En Marche à l'Assemblée nationale. Il n'y aura pas de réponse magique pour faire arrêter la grève. C'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. La plupart des choses dont on a entendu parler aujourd'hui étaient soit connues, soit contenues déjà dans le rapport Delevoye de l'été, soit annoncées dès ce matin puisqu'ils avaient tout laissé fuiter. Donc qu'est-ce qu'il y a ? Il y a effectivement un recul pour les personnes qui vont être concernées. Maintenant, ce sont les personnes nées après le 1er janvier 1975 qui vont être concernées par la réforme. Jusque-là, effectivement, on parlait plutôt de la classe d'âge 1963, mais sur la base d'un rapport. Est-ce une réelle concession ? C'est sûrement pas comme ça que c'est perçu par les Français. Les régimes spéciaux vont bien être supprimés, comme le Premier ministre s'y était engagé. Alors, ça ne sera pas au même moment,
puisque
pour notamment les conducteurs, c'est à partir de 1985 qu'ils entreront dans la réforme.
RATP, SNCF.
Il y a effectivement après plusieurs mesures de compensation pour notamment les femmes, puisque maintenant la maternité va être prise à 100% dès le premier enfant. Mais c'était déjà dans le rapport de loi. Ceux qui s'y étaient intéressés, c'était déjà dedans. Vous avez parlé également de la réforme pour le minimum retraite à 1000 euros pour notamment les agriculteurs. C'est énorme pour les agriculteurs. Mais attention, on ne parle que de retraite à taux plein, donc de gens qui ont travaillé pendant toute leur vie. Et quand c'est ça, la moyenne des retraites pour les agriculteurs est aux alentours de 900 euros pour ceux qui ont pu travailler toute leur vie. Donc certes, c'est énorme d'avoir ces 100 euros en plus par mois, mais ce n'est pas non plus la révolution majeure. Il y a des choses en direction
la
de la pénibilité.
La garantie quand même sur la valeur du point.
Bien sûr, ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes.
Mais le compte n'y est pas.
Voilà. Mais il y a deux erreurs extrêmement importantes dans ce qu'a fait, je pense, ce matin Édouard Philippe. C'est-à-dire que déjà, il a annoncé ce qu'on appelle un âge d'équilibre. C'est-à-dire que l'âge légal va rester à 62 ans. Vous pourrez, vous, Nathalie, partir à 62 ans si vous le souhaitez. Mais ce ne sera pas avec une retraite à taux plein. L'âge d'équilibre, c'est 64. Alors, c'est joli comme petit mot, l'âge d'équilibre, ça ne veut en plus rien dire. Mais ce qui veut donc dire qu'il faudra travailler jusqu'à 64 ans. Ça, c'est la première très très grosse erreur, à mon humble avis, d'Édouard Philippe. Et la deuxième erreur, c'est que dans son discours, il n'a pas parlé de la classe d'âge 85 pour les régimes spéciaux. Il a fallu avoir des explications
effectivement.
Ça,
après coup, c'est
bon
arrivé dans l'après-midi. Tout à fait. Alors, on va prendre des auditeurs qui sont évidemment curieux et attentifs ce soir. Frédéric, notamment de Béziers. Bonsoir à vous. Vous avez 39 ans, donc vous serez concerné. Oui. Hein, on ne va pas se mentir. Enfin, ce sera un peu comme vous, Emmanuel, d'ailleurs. Hein.
Ah oui,
ce sera avec l'ancien régime et le nouveau régime.
Frédéric a 39 ans. Vous êtes né en 1980 ?
C'est ça, tout à fait. Ah bonsoir à vous.
Vous êtes concerné.
Bonsoir. Alors, vous avez votre question, Frédéric.
Alors oui, moi j'avais une question parce que j'ai lu les annonces du Premier ministre et je suis assez perplexe en fait parce que, comme disait Yves Duteil, par exemple les 1000 euros...
Yves, non, alors ça c'est Emmanuel, mais c'est pas grave.
Emmanuel Duteil, autant pour moi, je suis désolé.
Vous inquiétez pas, ça m'arrive souvent, mais on n'a aucun lien de famille.
Effectivement. Les 1000 euros assurés, c'est une très bonne chose, même si effectivement, comme vous disiez, pour les agriculteurs, c'est 100 euros de plus, c'est pas le bout du monde. Mais moi, ce qui me fait très peur, c'est que les différentes réformes qu'il y a eu, finalement, n'ont fait que baisser les retraites, au final. Et cette retraite par points, finalement, c'est une privatisation, un début de privatisation des retraites, finalement. Alors, moi, ce qui me dérange, c'est parce que moi, je travaille dans le monde de la banque. Et je me pose deux questions. Qui va gérer ça ? Qui va déterminer le coût du point, le prix du point ? Et finalement, si effectivement c'est les marchés qui gèrent ça, qu'est-ce qui se passe si un jour il y a un retournement ?
Alors attendez, on va essayer de répondre clairement, Frédéric. Merci de votre question. Allez-y, Emmanuel.
Sachez que le Premier ministre, alors la formule était faite pour que ça matche, mais le Premier ministre a dit que ce ne sera pas le règne de l'argent roi, c'est-à-dire que ce n'est en rien la finance qui va gérer le prochain système. Qui va gérer ? Ce sont les partenaires sociaux qui vont être chargés de définir la valeur du point avec deux règles d'or qui vont être fixées par la loi. La première, c'est que ce point ne pourra pas baisser. Et la deuxième, c'est que ce point évoluera en fonction de la hausse des salaires et non en fonction de l'inflation. Qu'est-ce que ça change ? C'est que ces dernières années, en tout cas, la hausse des salaires a été plus forte que la hausse des prix en France. Donc c'est considéré comme une sorte de petite concession de la part du gouvernement. Après, est-ce que ça veut dire que nos retraites ne pourront pas baisser ? Non, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que le poids des retraites devrait rester similaire en France, aux alentours de 14% de tout ce que l'on crée sur une année en France. Mais ça ne veut pas dire que les retraites de tout ce que l'on peut être vont être maintenu au niveau du régime actuel.
Merci Frédéric depuis Béziers, merci Emmanuel, votre réponse et les questions qui arrivent de nos auditeurs en nombre 3921, c'est juste après.
Jusqu'à 20h, c'est votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy sur Europe 1. Ah, vous avez l'esprit d'à propos, Nathalie Lévy. 19h42, la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1.
Avec Emmanuel Duteil à mes côtés, chef du service économie d'Europe 1, et vos questions à vous, les auditeurs. On va prendre Ronan en ligne. Ronan, bonsoir, vous êtes à Nantes, vous avez 40 ans, vous serez aussi concerné par cette réforme des retraites et vous allez poser votre question, Emmanuel.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Y a beaucoup d'inquiétudes chez les enseignants, forcément. Après, on ne peut pas poser toutes les questions, mais on a reçu un mail de M. Blanquer nous disant qu'on comprenait mal. C'est peut-être tout ce qui s'explique mal, c'est dommage pour un ministre de l'Éducation. Moi, ma question, c'est, je suis en milieu de carrière, je suis arrivé un petit peu sur le tard en tant qu'enseignant, aux alentours de 32 ans, ce qui est tard dans ce cursus, et je suis à peu près là, à l'échelon intermédiaire, à 1 750 € net par mois. Est-ce que ma retraite sera garantie à au moins ce prix-là ? C'est-à-dire que est-ce qu'en retraite j'aurai la pension qui vaut à peu près à la moitié d'une carrière d'enseignant, quoi.
Au regard des informations que l'on a pour le moment, c'est très compliqué de répondre par oui ou par non. Je vais vous répondre de façon un peu générique. Ce qui va se passer, et c'est le même cas par exemple pour moi, puisque nous avons le même âge, c'est-à-dire que notre première partie de carrière jusqu'à 2025 va être calculée en fonction des règles qui étaient celles du précédent régime. C'est-à-dire vous, par exemple, la règle des 6 derniers mois qui servent de calcul à la retraite. Qu'est-ce qu'on va faire de cette première partie d'année ? À la fin de l'année 2024, on va calculer les points que ça vous génère. Et vous ne rentrerez dans le nouveau système qu'à partir du 1er janvier 2025. Et ce n'est qu'à partir de là que vous serez calculé comme le régime général. Mais logiquement, si l'on en croit en tout cas les promesses du gouvernement, d'ici là, votre salaire aura été revu à la hausse. Alors je suis d'accord avec vous que celui qui a compris comment ça allait se faire, il est bien malin, mais ils ont pris l'engagement que vous ne seriez pas lésé sur vos pensions de retraite. Donc on peut légitimement estimer, si l'on croit ce que le gouvernement a essayé d'expliciter aujourd'hui, que votre pension de retraite devrait être relativement équivalente à ce que vous auriez dû avoir. Après, je rappelle,
avec l'actuel régime.
Voilà, je rappelle juste que quand on part à la retraite, pour le régime général, on n'a pas notre dernier salaire, bien bien loin de là, puisque en moyenne, on est aux alentours de 60% de notre dernier salaire.
Merci Ronan de votre appel et voilà la réponse d'Emmanuel Duteil ce soir. Hélène nous appelle également de Lille et Hélène a 40 ans également, donc concernée aussi par ce mix en fait entre l'ancien régime et le nouveau régime. Bonsoir Hélène. Votre question.
Alors voilà, moi je suis profession libérale, je dépends d'un régime de retraite autonome et je voulais savoir pourquoi l'État vient piocher dans nos régimes autonomes qui sont à l'équilibre grâce à nos sacrifices depuis des dizaines d'années.
Alors si j'étais cynique, peut-être parce qu'ils sont à l'équilibre, il n'y a pas beaucoup de régimes à l'équilibre, mais ce n'est pas la bonne réponse et ce n'est pas la véritable réponse. Le but de cette réforme, c'est donc de créer ce que l'on appelle un régime universel et un régime qui soit donc le même pour tout le monde. Si on avait continué à maintenir le régime autonome des professions libérales, ça n'aurait pas fonctionné dans l'idée d'universalité qui est celle du gouvernement. Vous, c'est vrai que ça va considérablement évoluer, puisque pour les professions libérales, on est à un taux de cotisation, ce qui doit être le vôtre, aux alentours de 14%, je crois. Et là, vous allez passer au régime général à 28% au moment où vous allez entrer dans la réforme. Donc effectivement, vous allez beaucoup plus cotiser et pas obligatoirement pour avoir une meilleure retraite. Donc ça, c'est certain que les professions libérales qui avaient jusque-là des régimes autonomes, hein, c'est le cas par exemple des avocats, vous êtes parmi les perdants de la réforme, mais vous aurez quand même une réforme, mais vous allez avoir aussi une retraite au bout du bout.
Merci Hélène de votre appel depuis Lille ce soir. Hélène, âgée de 40 ans. Emmanuel, il y a beaucoup de questions et on voit aussi qu'il y a déjà beaucoup de réponses, en tout cas beaucoup de mécontentement du côté des syndicats. La CFTC par exemple ce soir, Confédération des travailleurs chrétiens, qui appelle à se mobiliser mardi prochain, 17 décembre.
Oui, ça montre véritablement qu'Edouard Philippe n'a pas réussi, et pardonnez-moi l'expression que je vais utiliser, il s'est même planté pour convaincre, puisque la CFTC fait partie de ce que l'on appelle les syndicats réformiste avec
exactement
l'UNSA et avec la CFDT.
Et la CFDT, ça y est, à l'instant, on l'apprend également, qui rejoint le cortège.
Donc là, il faut voir qu'un Premier ministre type Édouard Philippe, qu'on pourrait considérer un Premier ministre Pierre Mendès France ou Rocardien, ce genre de choses, donc d'habitude quelqu'un qui arrive à dialoguer, réussir à se mettre à dos la CFDT qui soutient la réforme, la CFTC et l'UNSA qui soutiennent également la réforme, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il va y avoir assurément peut-être pas un durcissement du conflit au sens difficulté engendrée. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, la CFDT et la CFTC envoient un message extrêmement clair de le compte n'y est pas. Et vous savez pourquoi, hein ? C'est-à-dire que la CFDT, c'est pour deux raisons principales. Le 64 ans qu'il ne digère pas.
C'était la ligne rouge, avait dit Laurent Berger.
Et une autre raison qu'on n'imagine pas, c'est-à-dire que, par exemple, quand j'expliquais tout à l'heure à un auditeur que ce sont les syndicats qui vont devoir gérer le point dans les années à venir, très clairement, la CFDT dit, vous êtes bien gentils, on ne voulait pas obligatoirement cette réforme, on ne voulait pas obligatoirement comme ça, et vous allez nous obliger à gérer et à prendre les mauvaises décisions à votre place, donc vous êtes bien gentils, mais gérez votre bazar.
C'est ça, c'est ce que nous disait Fabrice Angéli de la CGT tout à l'heure, il nous disait, on nous renvoie la patate chaude, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça se joue. La CGT aussi qui appelle à durcir le mouvement, et même à continuer pendant les fêtes de Noël, l'UNSA, même combat, ce soir effectivement, ils seront tous derrière une seule et même banderole, sans doute mardi prochain. Qu'est-ce qui se passe, Emmanuel Dutheil, ce sera ma dernière question. Qu'est-ce qui peut se passer là, du côté du gouvernement, à l'heure où nous parlons, réunion de crise, pour se dire il va peut-être falloir quand même donner quelque chose ?
C'est-à-dire que là, objectivement, il se retrouve face à un nouveau mur. On avait beaucoup parlé de celui du 5 décembre, mais maintenant, ça va être celui du 17 décembre si ça continue comme cela. Je pense qu'il faut attendre de voir, ça va se décanter. Inévitablement, il y a eu des coups de fil avec la CFDT, ou il va y avoir des coups de fil avec la CFDT, et on entre dans une phase de discussion qui était assez attendue, mais on ne s'attendait quand même pas à ce que ça bloque autant. Il faut voir que ça n'a sûrement pas fait plaisir au gouvernement, mais les seuls qui étaient contents, c'était le MEDEF. Pas bon signe pour essayer de rassembler les troupes derrière.
Merci beaucoup Emmanuel Dutheil, merci pour vos réponses, merci pour vos précisions, chef du service économique d'Europe 1.
Europe 1.
Jusqu'à 20h. Vous écoutez, vous Nathalie Lévy.
Oui, Clara Luciani, ça se passe à l'Olympia à Paris, les Olympia Awards. On est partenaire Europe 1, c'est vu avec l'accent. C'est tout de suite sur Europe 1, sur le tapis rouge. C'est pas moi qui y suis, c'est Angèle Châtelier. Il y en a qui ont de la chance.
Oui, c'est vrai. Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. 19h51, votre grand journal du soir, c'est aussi la culture au sens large. Nathalie Lévy, on prend tout de suite la direction de la mythique scène de l'Olympia à Paris. Retrouvez Angèle Châtelier pour la toute première édition des Olympia Awards.
Mais oui, qui récompense les humoristes et les musiciens de l'année. C'est retransmis en direct sur C8 ce soir, Europe 1 est partenaire. Hello Angèle.
Bonsoir.
Bon, racontez-nous, faites-nous rêver, un peu de paillettes. Vous êtes sur place, quelle est l'ambiance?
Oui, le public vient de rentrer. Ça fait que la fosse est debout, ça change des cérémonies habituelles parce que ce soir, l'idée n'est pas tant de récompenser des artistes, mais plutôt offrir un vrai show de 2 heures. C'est Antoine Decaune qui présente les Olympia Awards. Son acolyte José Garcia est attendu,
génial.
Ça promet. Ouais. Et puis il y aura des concerts, des happenings. La scène est déjà allumée d'ailleurs et elle est plus imposante qu'un concert classique à l'Olympia.
Ambiance garantie. Donc qu'est-ce qui distingue, Angèle, les Olympia Awards des Victoires de la Musique ?
Ici, c'est une double affiche. On récompense des musiciens, mais aussi des humoristes. Mmh. C'est ce que rappelle Laurent de Cerner, co-directeur de l'Olympia.
Sur deux piliers que va reposer cette soirée, à la fois humour et musique, le même ADN que celui de l'Olympia. Mais évidemment, il fallait qu'il y ait aussi un clin d'œil. Donc en termes de programmation, on retrouve beaucoup, beaucoup d'artistes qui sont déjà passés à l'Olympia ou qu'on retrouvera bientôt à l'Olympia.
Alors, on imagine qu'il y aura des concerts, des spectacles. Qui est attendu précisément ?
Une vingtaine d'artistes sont nommés et une dizaine se produiront en direct. L'humoriste Romane Fraissinet, la chanteuse Jennifer, Bilal Hassani ou encore Clara Luciani. Elle remplissait déjà 3 fois la salle en septembre dernier. Alors elle, Clara Luciani, elle concourt dans la catégorie concert de l'année, forcément. Le public peut voter en direct pour élire le lauréat, mais il n'y a qu'une artiste qui ne s'inquiète pas ce soir de recevoir ou non un trophée, c'est Catherine Ringer. Jean-Paul Gaultier va lui remettre un award d'honneur pour les 40 ans d'Erita Mitsuko. Les récompenses, elle y serait presque habituée si on l'écoute.
Moi, je travaille dans la musique depuis que j'ai 17 ans. J'en ai 62, donc ça va faire bientôt 45 ans de carrière. C'est une bonne tranche de vie, oui.
Après tant de récompenses reçues, est-ce qu'on a encore la même saveur quand on en reçoit encore ?
Oui, dans le sens où c'est toujours bienvenu et toujours agréable. Et puis non, parce qu'on est un peu plus habitué que la toute première fois, comme disait Jeanne Masse.
Vous en souvenez justement de la toute première fois ?
Que j'ai eu une récompense, je crois que c'était à l'école. J'avais eu un prix d'honneur pour mes bons et loyaux services scolaires.
D'autres grands noms sont nommés dans les catégories artistes et humoristes de l'année. Alors on pense à Alain Souchon, Mathieu Chédid, comme Anne Roumanoff ou Jérôme Commandeur.
Ah, génial, Anne Roumanoff, hein, on est tout cœur avec elle. Il y a aussi une catégorie oui. Révélation de l'année. On mise sur qui, à votre avis, Angèle ?
Eh bien, chez les humoristes, Inès Reg a vraiment ses chances. Elle a eu un succès monumental sur un petit sketch diffusé sur Internet il y a quelques semaines, souvenez-vous.
C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin ? C'est quand, où est-ce qu'on habite, Kevin ? Je veux des moulures au plafond, Kevin ! On habite dans le 9-3, c'est ça que tu m'offres ? Kevin, tu me dégoûtes.
On adore.
Mais oui, avec ce sketch, elle est devenue depuis un phénomène. Elle fait sale comble à chacune de ses prestations. Et pour la partie musique, il y a de tout. Des rappeurs comme L'Homme Pâle ou Aloïs Sauvage, c'est le genre le plus écouté chez les plus jeunes, hein, sur les plateformes de streaming. Mais il y a aussi de la chanson française, le groupe 3 Cafés Gourmands, la chanteuse Maëlle, dont l'album a été écrit par Calogero, mais aussi Gauvin Serre, c'est un proche du chanteur Renaud.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est instite. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes.
L'Olympia, comme Canal+, espère maintenant inscrire dans le temps cette cérémonie.
Eh oui, cette Olympia Awards, merci beaucoup. Angèle, merci. Angèle Châtelier, cet événement dont Europe 1 est partenaire. Émilie Mazoyer, vous êtes où ? Vous ça connaissez par cœur.
Pendant la nuit.
Ouais, je savais.
C'est comme ça. Mais oui, mais quelle héroïne du rock'n'roll, cette Catherine Ringer. C'est trop chouette de l'entendre.
Et quel est votre héros ou votre héroïne ce soir, alors ?
Alors, on parle de guitare héros, en l'occurrence. C'est le légendaire guitariste du groupe anglais The Who qui est avec nous ce soir. Just because we get around. Les années 60, puis 70, puis 80. Bon, un creux dans les 90 comme tout le monde, j'ai envie de vous dire. Et là, les Who qui reviennent avec un nouvel album, c'est incroyable, en 2019. Ils ont toujours la pêche. Et Pete Townshend donc, sera l'invité de musique ce soir, puisque notre Esther Trousset est allée le rencontrer, non pas dans un bar louche anglais, ils ont passé ça depuis longtemps, non, dans un palace parisien, comme une vraie rockstar.
Ah ouais, ça, c'est des personnages sans âge, hein. Incroyable. Ah, c'est ça, votre héros du soir, c'est bien ce que je disais. Oui. Merci beaucoup, Émilie. On reste branché avec vous, ça va rocker. Non, c'est pas français.
Mais si, tout va bien.
Merci Émilie, salut à vous. On sera là demain soir. Merci Marlène de nous avoir accompagnés avec vous, chers auditeurs, pour vous informer. Et bien entendu, avec toute l'équipe, dès 18h jusqu'à 20h sur Europe 1, fidèle au poste pour écouter Le Monde Changer.
Et c'était Nathalie Lévy sur Europe 1.